Et juste avant de commencer, si M. Lué vient regagner sa place éminente, je voudrais vous présenter deux personnes très importantes au fonctionnement de notre collectivité. La première, vous l'avez dû déjà la croiser, il s'agit de Fabrice Andresse, qui est derrière nous, là, qui se cache. Et Fabrice, c'est donc le nouveau régisseur de l'espace culturel. Bienvenue. Bienvenue. Et puis, là, vous ne l'avez sûrement pas encore rencontré, parce qu'il a pris ses fonctions depuis ce matin seulement. Il s'agit de Damien Ferry, qui est notre nouveau directeur du service financier et juridique. Voilà, il est dans le public, à côté d'Éric de Fouillou. Voilà, merci. C'est qui Éric de Fouillou? C'est une plaisanterie de Monsieur Hué. Je voudrais pas...
Le conseil n'est pas commencé.
Bien, écoutez, c'est un conseil qui sent un peu les vacances, je ne sais pas pourquoi, tant du point de vue de la participante des conseillers que du public. Bon, allez, bravo, bravo au public qui est là, donc un 2 juillet. Alors, je suis présent, Clotilde Lagoutte, Alain Véler, Stéphanie Charret est absente, est excusée, représentée par Sylvie Galochet. Didier Moreau. Marina Descottes-Galli est absente, excusée, représentée par Virginie Salitra. André Palancade. Anne-Marie Hollas. Claude Godard. Sylvie Galochet. Roger Cypré. Je constate l'absence de Samira Boujidi. Jacob Nalouna est absent, est excusé, représentée par Pascal Lué. Simone Jérôme. Charles Murat. Virginie Salitra, Karine Jarry est absente, excusée, représentée par Simone Jérôme, Michel Veu est absent, excusée, représentée par Charles Murat, et oui, Daniel Boudet est absente, excusée, a donné pouvoir à Anne-Marie Hollas. Pascal Hué est présent. Je vous propose de le nommer secrétaire de séance. Pas d'objection. Je vous remercie pour lui. Sandrine Nagel est absente. Pour une fois, je crois bien que ça va être la première fois depuis le début de notre mandat que Sandrine Nagel est absente. Elle a pris une semaine de vacances. Hein ? Oui, oui, parce que je... Oui, absolument. Même moi, je ne peux pas en dire autant. Donc, Sandrine Nagel est absente, excusée et représentée par moi-même. Mehdi Ben Salem, Jean-Pierre Gabarou. Monique de Villene est absente, excusée, a donné pouvoir à Jean-Pierre Gabarou. Catherine Deviès est absente, excusée, a donné pouvoir à Monsieur Saussier. Serge Saussier. Voilà. Pascal Decker est absent, excusée, a donné pouvoir à Madame Chute. Je constate l'absence de Madame Moilly et Stéphanie Chute. Voilà, bon, on a quelques absents, la plupart sont excusés, mais on peut valablement délibérer, c'est l'essentiel. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil municipal en date du 28 mai 2018. Je n'ai reçu aucune observation, mais je pense que j'aurai 6 voix contre. C'est bien cela. Les autres pour. C'est parfait. Y a-t-il des questions concernant les décisions que j'ai été amené à prendre dans le cadre de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales? Il n'y en a pas. Je regarde, vous êtes juste dans... Si, il y en a une.
Bonsoir à tous. Non, pas une question, mais juste un remerciement de nous informer enfin sur l'attribution des marchés de travaux sur l'avenue Foch. C'est tout.
D'accord. Oh, vous aviez quelqu'un dans votre groupe qui était en mesure de bien vous informer également. Qui a suivi très très attentivement les travaux. Donc, convention signée par le maire du numéro 74 au numéro 95. Des questions ? Non. Alors, nous allons pouvoir examiner les projets de délibération. Auparavant, je vous signale Deux modifications dans la rédaction des projets de délibération qui vous ont été transmises. L'une concerne, c'est la 110, concerne la modification du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs pour les temps périscolaires, accueil pré- et post-scolaire, quelques précisions. De même, en ce qui concerne la 120, budget annexe des activités culturelles, création d'une carte d'abonnement et de tarifs pour les stages et ateliers organisés par le service culturel à compter du 1er septembre 2018. Et je vous demande l'autorisation de mettre sur table, en tous les cas, les deux délibérations suivantes, la 126 et la 127, qui sont nécessaires pour nous permettre de recruter notre nouvelle directrice du multi-accueil, qui pourrait prendre ses fonctions une semaine avant que Anne-Claire Gentil les quitte, puisqu'elle part à la retraite. Donc Anne-Claire Gentil nous quitte le 1er octobre et nous pourrions recruter une personne qui est dans un cadre d'emploi qui n'existe pas encore dans la collectivité. Et pour lequel nous n'avons absolument pas de poste. Alors c'est un cadre d'emploi qui a été créé en 2016. Voilà, c'est un nom un peu barbare, vous le verrez. De la même façon, il nous faut modifier la délibération 42 relative au régime d'indemnitaire pour le cadre d'emploi des puéricultrices, puisque nous n'avions pas ce cadre d'emploi, donc nous n'avons pas créé de régime indemnitaire. Est-ce qu'il y a des objections à ce que je vous présente ces projets de délibération? Je n'en vois pas et donc je vous remercie. Alors nous allons pouvoir attaquer l'ordre du jour qui est un peu chargé. On va essayer d'être raisonnable. Alors, au préalable, puisque dans la délibération 99, je vais vous proposer d'engager la commune de Nangy pour la construction d'une caserne de gendarmerie en application des dispositions du décret numéro 93-130 du 28 janvier 93. Alors j'étais un tout petit peu troublé aujourd'hui à la lecture de l'article de la République de Seine-et-Marne qui annonce que le conseil départemental se porterait maître d'œuvre. Alors, Je pense qu'il doit y avoir une petite erreur dans la rédaction de l'article. À ma connaissance, puisque c'est une déclaration qui nous a été faite par le président du conseil départemental lors du 50e anniversaire du collège René Barthélémy, le conseil départemental s'engagerait à apporter une subvention donc à ce projet. Mais ma connaissance, pas devenir maître d'ouvrage, ou alors ça serait vraiment un retour en arrière, puisque aujourd'hui le conseil départemental n'est plus propriétaire d'aucune gendarmerie, puisque celle dont il était propriétaire, il les a recédées à Vinci en 2008. Si j'ai bien le sens, il devait y rester encore 9 gendarmeries. Donc je vous propose, dans le doute, de bien prendre cette délibération sur laquelle je vais m'expliquer. Grâce à la mobilisation citoyenne des Nangiciennes et Nangiciens pour revendiquer leurs droits à la sécurité et la tranquillité publique, notamment à travers la pétition lancée à l'automne dernier, pour demander une augmentation significative des effectifs de la brigade de gendarmerie de Nangy, la municipalité de Nangy s'est faite entendre sur ses besoins auprès de Madame la préfète de Seine-et-Marne et du commandant de groupement de gendarmerie départementale de Seine-et-Marne. Cette rencontre a permis aux services de l'État de prendre conscience de la nécessité de construire une nouvelle caserne de gendarmerie sur la commune de Nangy afin de renforcer les effectifs de la brigade territoriale, notamment par une structure suffisamment attractive. L'objectif, pour moi, étant de bénéficier d'une trentaine d'effectifs contre 17 gendarmes actuellement, accompagnés de 2 gendarmes adjoint. Alors, nulle part, il est question de 30 gendarmes, hein, que les choses soient claires, mais 30 gendarmes, c'est à peu près l'effectif de la brigade territoriale de la Ferté-sous-Jouarre, qui rayonne sur un territoire assez comparable au nôtre. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir de si fortes inégalités. Je rappelle que cette demande de construction d'une nouvelle gendarmerie, moi je la porte depuis 2005, depuis que nous travaillons au projet de ZAC de la Grande Plaine. Et j'ai eu de cesse de refaire la proposition à la hiérarchie départementale de Seine-et-Marne, hein, donc le commandant du groupement, le commandant ou la commandante. De même, j'avais alerté le SDIS sur la possibilité d'envisager la construction d'un nouveau centre d'incendie et de secours, celui de Nangis étant totalement enclavé et ne pouvant pas s'étendre. Et jusqu'à présent, je le rappelle, la réponse avait toujours été non. C'est toujours le cas pour le SDIS, hein, il n'y a pas d'avancée de ce point de vue-là. Mais lors de ma rencontre au mois de février avec le colonel commandant le groupement départemental de gendarmerie, le ton avait considérablement changé. Et donc on a un commandant qui considère effectivement qu'aujourd'hui les effectifs sont insuffisants et considère qu'il ne suffit pas d'ailleurs de créer des postes, mais qu'il faut les rendre aussi attractifs, faute de quoi on pourrait avoir des effectifs budgétés mais non pourvus. Il y a à peu près 150 effectifs en Seine-et-Marne budgétés et non pourvus. C'est à peu près l'information qui m'avait été donnée à ce moment-là. Dans le cadre de l'élaboration du cahier des charges, les éléments d'étude de ce projet immobilier nous ont été présentés. Ce sont les suivants. Besoin en superficie, un terrain d'environ 6 000 m² en logement collectif et environ 9 500 m² en logement individuel. Besoin en locaux de service, environ 230 m² de bureaux. Besoin en locaux techniques, environ 95 m² de garage de service et autres locaux de stockage. Besoin en superficie et typologie de logement, 3T2 de 52 m², 4T3 de 70 m², 6T4 de 88 m², 3T5 de 106 m² et 1T6 de 118 m². C'est extrêmement précis et donc ce sont des éléments qui nous sont communiqués par le service des infrastructures de la gendarmerie. Au total, ça représente des besoins en surface de 20 000 m² de façon à prévoir d'ores et déjà l'extension de cette gendarmerie, puisque le fonctionnement de la gendarmerie est assez curieux. On construit une gendarmerie à partir des effectifs qui sont présents et non pas des effectifs que l'on pourrait espérer, comme ça. Donc on ne peut pas prévoir la construction pour le moment de quelque chose de plus étoffé que 17 gendarmes. Je rappelle qu'aujourd'hui, ils sont quand même 8 à être logés à l'extérieur de la caserne. Donc ce serait déjà une amélioration, mais clairement ça ne suffirait pas pour ce que nous souhaitons. Donc le terrain est prévu pour pouvoir permettre, en cours d'examen du dossier ou dans un deuxième temps, des extensions nécessaires. Concernant les besoins en superficie, la commune pourra faire appel à des terrains situés dans le futur quartier de la Grande Plaine. Nous avons un accord de principe sur la localisation du terrain entre Grand Paris Aménagement et les services départementaux de la gendarmerie, donc qui serait un terrain donc situé en entrée de ville sur la D408, donc les premiers terrains situés à droite quand on arrive de Melun. Enfin, les modalités de financement sont de deux ordres. Une partie sera financée par des subventions. Cette partie, normalement, se monte à 50% entre la région et la Caisse des dépôts et consignations. Donc le financement du département viendrait en plus. Tandis que l'autre partie serait financée par Alors, non, par un emprunt, en fait, pas par la perception des loyers de la gendarmerie, serait financé par un emprunt, et ce sont les annuités de l'emprunt qui, elles, seraient couvertes par les loyers de la gendarmerie. Selon les dispositions du décret relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction d'une caserne de gendarmerie, la commune pourra bénéficier d'une part d'une subvention de l'État de l'ordre de 18% du coût plafond déterminé par référence à la valeur forfaitaire de l'unité logement servant de base de calcul du loyer et d'autre part d'une contribution financière régionale à hauteur de 40% du coût hors taxe des travaux. Voilà, bon, un petit peu plus de 50%. Là, on serait à 58. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, notamment d'un SMS envoyé en plein conseil communautaire à un conseiller communautaire, les subventions pourraient atteindre 80%, mais là on a quand même besoin de clarification. Le président du conseil départemental s'est engagé publiquement à accorder une aide financière pour la réalisation de ce projet, tandis que la question de la participation de la communauté de communes à la voie énergicienne est actuellement en débat. La commune devrait donc financer près de la moitié, alors moins de la moitié du projet, et des taxes pour un éventuel emprunt, par un éventuel emprunt, sachant que le montant des loyers versés de la gendarmerie pourra couvrir le remboursement des annuités assez largement même. Afin que la préfecture de Seine-et-Marne et la direction générale de la gendarmerie nationale s'engagent pour la construction de nouvelles casernes de gendarmerie à Nangy, le conseil municipal doit confirmer par voie de délibération sa qualité de maître d'ouvrage sur ce projet. Alors, ça c'est la présentation. Sur le fond, j'avais déjà exprimé ma position, dire ce qui est de compétence de l'État devrait revenir à l'État. Ça fait bien longtemps d'ailleurs que l'État a cessé de financer lui-même les casernes de gendarmerie. Ça fait bien longtemps qu'il les avait déjà transférées à la charge des départements. Les départements n'en pouvant plus, essayant de s'en débarrasser, puisque les départements connaissent aussi des grandes difficultés financières. Donc aujourd'hui, il existe trois possibilités de financement. Celle par portage d'une collectivité locale, donc la commune sur laquelle sera installée la nouvelle caserne, ou la communauté de communes, j'y reviendrai. Ou la loi le permet maintenant de faire porter cette opération-là par un bailleur social. C'était le cas notamment de la gendarmerie de Mormant, hein, qui a été construite par l'OPH 77, ou bien encore par un partenaire financier privé. Sur le règle un petit peu, à peu près sur la même règle de financement, hein, c'est-à-dire que le bailleur social comme le partenaire privé peuvent bénéficier du même niveau de subvention. Ce qui change, c'est qui encaisse les loyers et qui devient propriétaire de ce complexe de bâtiments. Évidemment, moi j'ai essayé d'intéresser la communauté de communes à ce projet. La communauté de communes, on a discuté dans sa dernière réunion de bureau, qui n'a pas donné un avis franc, massif, pour cette solution. Mais pour ceux qui étaient au conseil communautaire. Moi, je n'ai pas voulu engager tout de suite réellement le débat. Je considère que ce n'est pas plus de la compétence de la communauté de communes qu'une commune, mais compte tenu de l'activité d'une brigade, 11 communes sur le territoire autour de Nangy, on pourrait imaginer que le portage par la communauté de communes aurait sans doute plus de cohérence. Je pense qu'il faut laisser la porte ouverte à toutes les solutions, mais ce qui est certain, c'est que s'il n'y a pas un maître d'ouvrage qui se propose, le projet ne sera pas étudié par la direction générale de la gendarmerie. C'est décidé, c'est étudié au niveau national, hein, ce genre, et il faut absolument qu'on fasse valider le projet, quitte à voir si on a la possibilité de faire, bien entendu, et évoluer le portage. Si tel n'était pas le cas, parce que je pense qu'il faut être responsable jusqu'au bout, c'est-à-dire que si il devait s'avérer que c'est bien à la commune, qu'il lui reviendra finalement de conduire cette réalisation, Là encore, moi, je trouve qu'on a un problème de compétence. C'est quand même dommage, encore, de se retourner vers les communes. Lorsqu'on en a besoin, et de demander aux communes de faire des efforts financiers aussi, quand l'État également en a besoin. Cela étant, voilà, ça ne dégraderait pas. Alors, ça peut faire apparaître un endettement supplémentaire. En même temps, comme il y a des recettes qui sont affectées annuellement, ça ne doit pas forcément dégrader beaucoup la présentation de nos comptes. Si je dis ça, c'est parce que c'est important pour l'avenir, pour les 20 ans à venir. Il y a sans doute il y a des prêts qui vont arriver à échéance, mais il faudra sans doute dans les 20 ans qui viennent en contracter d'autres, et donc ce serait vraiment problématique d'avoir une situation d'endettement plus importante que ce que l'on souhaiterait, parce que nous portons des projets pour l'État. Cela étant, il y a déjà eu des précédents, hein. Nous sommes propriétaires du bâtiment qui abrite aujourd'hui la perception, et les services de la DGFiP nous payent un loyer, hein, qui couvre au final donc le coût de la construction. Donc voilà les raisons qui m'amènent aujourd'hui à vous proposer de prendre cet engagement. La parole à qui le souhaite. Monsieur Gavarou.
Bonsoir, monsieur le maire. Donc, nous sommes tout à fait d'accord sur le projet. Donc, je n'étais pas à la communauté de communes la dernière fois, mais monsieur Sourcier m'a fait un compte-rendu. Donc, nous sommes tout à fait d'accord sur le projet. Par contre, nous avons un petit peu une position un petit peu comme vous, dans le sens où on pensait quand même que la communauté de communes pourrait peut-être porter le projet. Sinon, est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité? Alors, le problème, c'est qu'on n'avait pas la circonscription exactement, la gendarmerie. Donc, vous venez de le dire, finalement, à 11 communes de la communauté de communes.
Oui, Nangy plus 10 communes. Alors, elles ne sont pas toutes dans la communauté de communes. Hein. Il y a Maison Rouge, notamment, sur le territoire. Oui. Il y a quand même plusieurs communes sur le territoire.
Alors, on se posait la question aussi, pourquoi pas essayer d'impliquer les 11 communes en faisant style comme pour la piscine?
Mais alors, il faudrait créer un syndicat.
Voilà.
Hein, parce qu'il faut.
Parce que c'est bien, les communes sont bien gentilles, mais si elles ne font rien, mais elles vont profiter quand même de la construction et de l'augmentation des effectifs, et puis sans rien faire, c'est gentil, mais je pense qu'il faut les impliquer un petit peu.
Nous partageons le même point de vue. Alors, la discussion, monsieur Saussier m'en sera témoin. Alors, c'est vrai que j'ai pas voulu, moi, la pousser jusqu'au bout, dans la mesure où le bureau, alors ça c'est un problème qui nous faudra quand même éclaircir. C'est vraiment dommage que le bureau ait décidé simplement de ne pas suivre et de ne pas présenter la question au conseil communautaire. Je rappelle que le bureau n'est absolument pas une instance décisionnaire, c'est une instance à la fois qui prépare les travaux du conseil communautaire et qui les met en application. Donc ce n'est pas une instance de censure en disant « ça on n'en veut pas, on ne le présente pas, ça on n'en veut pas, et ça au contraire ». Donc je pense qu'on a encore un peu de travail à avoir pour gagner à cette souplesse de travail. Donc normalement ça a été exposé au bureau, ça aurait dû être exposé dans la même forme au conseil communautaire avec un avis défavorable du bureau, tout simplement. Mais que le conseil communautaire puisse avoir des éléments d'appréciation. Voilà. Alors moi j'ai proposé au conseil communautaire de lancer les choses. Déjà ce qu'il faut, c'est que l'inscription soit acceptée. Une fois que l'inscription soit acceptée, s'il y a un changement de maîtrise d'ouvrage qui reprend dans les mêmes termes, c'est des choses qu'on a pu examiner avec la gendarmerie, il semble qu'il n'y ait pas de qu'il y aura pas de problème. Donc ça nous laisse du temps un peu pour monter les choses, pour convaincre, regarder, préciser un peu le montant des subventions qui pourraient être accordées. Et puis ça éviterait quand même d'avoir recours à la création d'un syndicat intercommunal qui est quand même assez lourd. Nous, on y a eu recours avec le SICPAN parce qu'à l'époque, ça aurait contraint à ce que la communauté de communes porte deux équipements aquatiques. Nangis d'un côté et Grand Puy et Grand Puy de l'autre, et que là c'était quand même sans doute trop lourd pour une petite communauté de communes. Donc c'est la raison pour laquelle on avait créé un syndicat à part, puisque beaucoup de communes étaient déjà engagées dans le CIVOM, donc voilà. Sous réserve de trouver peut-être un meilleur portage, plus cohérent avec le fonctionnement d'une brigade, je vous propose qu'on puisse lancer les choses ce soir. Donc il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'abstention. Ah, vous êtes pour, mais vous abstenez. D'accord. Bon.
On est pour le projet, mais pas...
D'accord, ok. D'accord. Mais pas porté par la commune. D'accord. Très bien. Alors, 6 abstentions et 21 pour, puisqu'on a une absente. Délibération 100. Je vais vous passer le micro, monsieur.
Un sujet plus léger. Participation de la commune de Nangis au périmètre de la future concession de services publics de location de bicyclettes sur le territoire d'Île-de-France par Île-de-France Mobilité. Dans le cadre de la mise en place d'un service public de location de bicyclettes sur le territoire d'Île-de-France, Île-de-France Mobilité lance une procédure de mise en concurrence pour désigner son futur exploitant. Ce service prendra la forme d'une concession de service public. La commune, faisant partie du périmètre de ce service, son accord est sollicité pour que le territoire communal soit intégré à la réflexion du déploiement des dispositifs de location de bicyclettes auprès des candidats de cette délégation. Ainsi, les lieux d'implantation du service dépendront du résultat de la mise en concurrence et des partenaires sur lesquels s'appuiera l'exploitant. Les particularités de ce service sont les suivantes. Location de vélos à assistance électrique et connectée, donc par un balisage GPS-GSM. Le délégataire aura en charge la commercialisation du service, donc mise à disposition des vélos de manière automatisée, mobile, par des partenaires relais ou implication de maisons du vélo multiservice, de la communication commerciale et de l'accès au service. Au troisième point, la désignation de l'exploitant étant prévue en fin d'année, le déploiement d'une première tranche de 1000 vélos à assistance électrique se fera au plus tard en septembre 2019. Il est précisé que la mise en place de ce service n'entraînera aucun frais à la charge de la commune, puisque les coûts du service seront partagés par le futur exploitant, les usagers et Île-de-France Mobilité. Ce service permettra à chaque francilien de bénéficier d'une solution de mobilité active supplémentaire dans une logique de développement durable et de protection de la santé publique, et plus localement sera une opportunité dans l'offre de transport du territoire communal et intercommunal. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de donner son accord pour que la commune de Nangis soit intégrée dans le périmètre de consultation de ce futur service. Je vous remercie.
Merci. Merci, Monsieur Huet. Alors, j'informe le conseil municipal que le conseil communautaire a déjà délibéré favorablement sur le sujet. Voilà, un accord de principe sur le développement de quelque chose qu'on va voir peut-être arriver ou peut-être pas, puisque ça dépendra de la réponse des délégataires. Donc, il ne s'agit pas du Vélib. Hein. D'ailleurs, bon, le Vélib actuellement, celui de Paris, on n'en veut pas trop, mais c'est effectivement une proposition de location de longue durée. Hein, donc, avec des vélos électriques, oui, mais oui, à Paris aussi, normalement, il devrait y avoir des vélos électriques. Voilà. Est-ce qu'il y a des avis contraires? Non. Des abstentions? Non plus. Donc la délibération est adoptée. La 101. Bon, allez, je vais... Allez. Bon, vraiment, c'est le travail de Pascal, mais bon. Voilà, c'est explicatif concernant donc le bilan de la concertation et l'arrêt du projet de règlement local de publicité. Bon, je dois dire, ne passionne pas énormément les foules. Hein, donc, nous avons quand même multiplié le travail de concertation. Je vais en parler, y compris avec les commerçants, mais qui étaient plus, pour certains d'ailleurs, préoccupés de la taxe locale sur la publicité et les enseignes. Mais voilà, bon, les principaux. Principales enseignes à Nangis, pas vraiment les commerçants locaux. Mais sur le règlement local de publicité lui-même, pas trop. Par délibération du conseil municipal numéro 2018 janvier 03 du 29 janvier 2018, la commune de Nangis a prescrit l'élaboration de son règlement local de publicité définissant les objectifs à poursuivre ainsi que les modalités de la concertation publique. Pour rappel, les objectifs de l'élaboration du règlement local de publicité sont les suivants. Objectif fonctionnel, permettre au maire d'exercer les compétences d'instruction et de police de l'affichage sur l'ensemble du territoire communal. C'est important parce que s'il n'y a pas de règlement local, c'est effectivement le règlement national qui s'applique et les services de l'État qui sont en charge de l'application sont avec des effectifs extrêmement, extrêmement réduits. Autant dire que le contrôle se fait très peu. Élaborer des prescriptions en matière d'implantation, d'insertion et de qualité des dispositifs publicitaires et d'enseignes afin de les rendre cohérents avec la signalisation d'informations locales. Instaurer des zones de publicité réglementées distinctes dans l'ensemble du territoire de la commune afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques des secteurs concernés. Adapter au contexte local les règles nationales en matière de publicité et d'enseignes prévues par le Code de l'environnement. Gérer et encadrer les dispositifs d'enseigne et de publicité sur le territoire communal. Objectif qualitatif, se prémunir des nuisances visuelles pour préserver et améliorer le cadre de vie et la qualité paysagère de la commune. Accompagner l'amélioration du cadre de vie par la limitation des implantations des dispositifs publicitaires enseigne et pré-enseigne, mais aussi de favoriser leur harmonie et leur cohérence. Valoriser l'image communal en général, garantir un cadre de vie de qualité à ses habitants, des entrées de ville attractives et des zones d'activité dynamiques. Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural du centre-ville, valoriser le patrimoine paysager par la préservation des perspectives et protéger les extensions urbaines résidentielles, renforcer l'attractivité et le dynamisme de l'activité économique et commerciale de la commune, privilégier la qualité et la lisibilité des enseignes dans le centre historique et des zones d'activité, améliorer la qualité et la lisibilité des principaux axes routiers traversant la commune et de leurs entrées de ville qui constituent la première vitrine du territoire, limiter les signaux susceptibles de gêner la lisibilité de la signalisation routière, encadrer les pré-enseignes pour rendre le jalonnement plus fonctionnel, favoriser la qualité esthétique des façades encadrant le nombre et la surface des enseignes sur façade, tenir compte des nouveaux dispositifs d'enseigne et publicité liés notamment à l'apparition de nouvelles technologies de communication. Conformément aux articles L103-3 à L103-6 du Code de l'urbanisme, le Conseil municipal, lors de la délibération du 29 janvier 2018, définit les modalités de la concertation publique permettant d'associer à la définition du projet et tout au long de la procédure les habitants de la commune, les personnes intéressées ainsi que les personnes publiques associées. Cette concertation s'est déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération du conseil municipal, à savoir information, articles de presse dans le journal municipal, les journaux locaux, parution sur le site internet, panneaux d'affichage, panneaux électroniques. Concertation, réunion publique ouverte à toute la population. Réunion des conseils des sages, de la jeunesse et du conseil associatif. Réunion de concertation avec les professionnels. Prise en compte des expressions et avis, registre de concertation ouvert au service urbanisme avec possibilité de consulter les documents produits au cours de la révision, par courrier et courriel. Procédure de la transparence, mise à la consultation de tous les documents produits au service urbanisme, mise en ligne des documents produits sur le site internet de la ville. L'ensemble des moyens de concertation est détaillé dans le bilan de concertation qui a été annexé. C'est dans ces circonstances que le conseil municipal est appelé à approuver le bilan de la concertation et à arrêter ensuite, dans la délibération suivante, le projet de règlement local de publicité conformément aux articles L103-3, L103-6 et L153-14 du Code de l'urbanisme. Allez. À cette suite, le dossier du règlement local de publicité arrêté sera transmis aux personnes publiques associées qui auront 3 mois pour rendre leur avis ainsi qu'à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et de site, c'est-à-dire la CDNPS. L'enquête publique pourra ensuite se dérouler courant de l'automne et durera environ 1 mois. Le commissaire enquêteur aura ensuite 1 mois pour rendre son rapport. Et après cela, donc, si tout va bien, une délibération approuvant le règlement local de publicité pourrait être présentée au vote du conseil municipal en début d'année 2019. Voilà, en gros, c'est une procédure extrêmement voisine de celle de l'élaboration ou d'une révision de PLU. Bon, vous avez un plan de zonage qui tient aussi compte un peu du travail qui avait déjà été réalisé dans la révision du PLU. Est-il des questions, des commentaires ? Non. On prend soin de la santé, c'est bien. Donc je mets aux voix, qui s'y oppose, qui s'abstient ? La délibération est adoptée, donc, à l'unanimité. Allez, je vais repasser la parole à monsieur Huet pour clore cette partie du processus.
Merci, monsieur le maire. Alors, échange des parcelles cadastrées, section AT numéro 68, AH 643, 640, 639, 734, 726, entre la commune et le département de Seine-et-Marne. Dans le cadre des travaux de dévoiement de la RD12, lors de la réalisation de la ZAC des Roches, le département de Seine-et-Marne et la commune de Nangy ont collaboré à régulariser la situation des parcelles impactées et qui n'avaient pas fait l'objet des démarches administratives nécessaires en leur temps. De plus, la commune souhaite acquérir la parcelle AH numéro 643 qui n'est plus utilisée par le département et dont ce dernier souhaite se défaire. Des travaux de clôture ont été entrepris afin de clore ce terrain qui est actuellement utilisé comme lieu de stockage. L'échange des parcelles ayant fait l'objet d'une délibération du conseil municipal, en date du 28 septembre 2015. Or, les références cadastrales ont depuis été modifiées par de nouvelles divisions, nécessitant de réactualiser cette délibération qui permettra la finalisation de l'acte unique, juridique. L'acte unique, c'est autre chose. Alors, pour rappel, les échanges sont les suivants. Donc, les parcelles AH 639, 640, 726, 724 et 68 passent du domaine privé communal en domaine public départemental. Et la parcelle AH 643 passe du domaine privé départemental en domaine privé communal. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur ce dossier.
Merci. Merci monsieur, et on vous fera grâce des mètres carrés respectifs de chaque parcelle. Et elles sont là derrière nous, il n'y a pas de souci. Enfin, même à voir, voilà. En fait, hein, c'est la route hein, qui permet de desservir l'entrée de l'espace commercial et qui rejoint le rond-point, qui aujourd'hui est devenu un bout de route départementale qui revient de recéder au département. Y a-t-il des questions, des commentaires, des oppositions, des abstentions ? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vais passer ensuite la parole. Ah, Sylvie Galochet pour la 103. Il s'agit donc du transfert de la compétence GEMAPI et prise en charge du prélèvement FNGIR par les communes et également l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées, la CLECT. Madame Galochet, vous avez
Merci, monsieur le maire. Dans la continuité des travaux de la commission locale d'évaluation des charges transférées de la coquette commune de la Brie-Nangissienne, le conseil municipal est sollicité pour approuver un nouveau rapport qui évalue le montant des charges transférées des nouvelles compétences. Le 6 novembre 2017, le conseil municipal a approuvé le premier rapport portant sur le passage à la fiscalité professionnelle unique par le groupement. Cette fois, la commune doit se prononcer sur un deuxième rapport qui est scindé en deux parties. La partie 1 du rapport porte sur le transfert de compétences liées à la GEMAPI. La partie 2 du rapport porte sur le choix fait par les communes de substituer la communauté de communes à ses communes membres pour la prise en charge du prélèvement du Fonds national de garantie individuelle des ressources, dit FNGIR, ainsi que sur le versement de compensation libre accordé à certaines communes ayant initié des projets avant le passage en FPU. Pour rappel, le rapport doit être approuvé par délibération concordante à la majorité qualifiée, c'est-à-dire par 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes, représentant les 2/3 de la population. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les deux parties de ce rapport que l'on vous a envoyé. Nous avons effectivement donc deux rapports, un qui concerne plus spécialement la compétence GEMAPI qui pour rappel donc est une cotisation, enfin tout au moins une participation financière sur la gestion hein, c'est la compétence de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, voilà, qui a été instituée tant par la loi MAPTAM que par la loi NOTRe. Comme vous avez pu le constater, la CLECT a travaillé sur le montant à prendre en charge par la communauté de communes, car il y avait plusieurs syndicats qui étaient concernés par cette prise en charge de cotisation pour les entretiens sur les rues qui existaient dans le secteur et sur leur territoire. La CLECT a fait un calcul de ces charges en question et a considéré qu'il y avait donc certaines cotisations, enfin, du moins certaines participations qui allaient être défalquées de l'attribution de compensation sur les attributions de compensation de certaines des communes. Alors, il n'y en a qu'une seule hein, qui n'a pas de réévaluation d'attribution de compensation, c'est la commune de Préau. Et ensuite de ça, il y a donc un deuxième rapport sur la prise en charge du FNGIR. Donc c'était suite à la délibération qui avait été prise le 1er octobre 2017. Et là, c'est pareil, toutes les communes qui avaient du prélèvement au titre du FNGIR ont accepté la prise en charge par la communauté de communes. Nangy n'a pas de prélèvement, Quiers n'en a pas non plus, Bréau et Verneuil, idem.
Alors, des questions, des observations sur ces opérations ? Non. Alors, je mets aux voix. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Une délibération est adoptée à l'unanimité. J'ai passé la parole à M. Godard concernant la 104 convention de gestion de services pour l'exercice de la compétence entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique de la communauté de Nangy au profit de la commune de Nangy au profit de la communauté de communes de la Brie-Nangissienne.
Merci, Monsieur le Maire. En application de la loi Nouvelle organisation territoriale de la République, NOTRe, la compétence développement économique a été renforcée. Ainsi, les zones d'activité économique, ZAE, des communes membres ont été transférées aux établissements publics de coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2017. Conformément au Code général des collectivités territoriales, le transfert en matière de ZAE emporte la mise à disposition au profit de l'EPCI à fiscalité propre des biens meubles et immeubles pour l'exercice de cette compétence. Le procès-verbal établi, contradictoirement entre la commune de Nangy et la communauté de communes de la Brie-Nangissienne, a été délibéré lors de la séance du Conseil communautaire du 21 décembre 2017 et de la séance du Conseil municipal du 29 janvier 2018. Dans ce cadre, la communauté de communes a repris à sa charge la gestion de la zone d'activité Moulin-Saint-Antoine et la zone industrielle implantée sur la commune de Nangy. Pour exercer ses compétences, dans l'intérêt d'une bonne organisation des services et dans un souci de mutualisation et d'efficience des moyens d'action, il est proposé d'établir une convention afin de mettre à la disposition de la communauté de communes les agents communaux, les services techniques. Le Conseil communautaire a approuvé la dite convention à l'unanimité des voix lors de la séance du 24 mai 2018. Il est donc demandé au Conseil municipal de se prononcer sur cette question.
Voilà, bon, ça fait un petit moment qu'on en parle. Il y a des questions, des observations ? Je mets aux voix qui s'y oppose, qui s'abstient. La délibération est adoptée à l'unanimité. Délibération 105, Charles Murat, la parole.
Merci, Monsieur le Maire. Convention relative à la modification des réseaux de télécommunications de l'avenue Maréchal Foch. Dans le cadre des travaux d'enfouissement des réseaux de l'avenue Maréchal Foch, il est nécessaire de procéder au déplacement des ouvrages d'Orange. La ville s'engage, à travers une convention, à indemniser l'opérateur Orange du déplacement de ses ouvrages. La convention proposée a pour objet de définir les modalités techniques et financières concernant les travaux relatifs au déplacement des réseaux de communication électronique réalisés à l'occasion de l'opération. Le montant prévisionnel de ces travaux s'élève à 11 610,60 €, hors taxe, soit 13 932,70 €. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser M. le maire ou son adjoint délégué aux travaux à la signer.
Merci M. Murat. C'est clair, des questions, de l'observation ? Je mets aux voix. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. La délibération 106, c'est M. Roger Cypré qui nous la présente. Convention de partenariat financier pour la mise en service d'un équipement de défense extérieure contre l'incendie.
Merci, Monsieur le Maire. Lors d'un entretien entre l'élu en charge de l'eau et de l'assainissement et l'entreprise Citex en date du 29 septembre 2016, cette entreprise a demandé la possibilité de faire créer un point d'eau incendie en limite de son portail d'accès, situé 7 impasse Léon Blum dans la zone industrielle de Nangy. En effet, Citex doit aménager une station-service pour poids lourds au sein de sa parcelle et se voit par conséquent contraint d'aménager ses équipements de défense extérieure contre l'incendie. Il est à noter que la commune respecte sans ce point d'eau incendie supplémentaire ses obligations réglementaires connues. À cet effet, Citex a demandé à la commune la possibilité de création de cet équipement de défense extérieure contre l'incendie, étant entendu que les coûts d'investissement seraient d'une façon ou d'une autre à sa charge exclusive. À compter de sa création, la commune devra respecter les dispositions réglementaires relatives à la surveillance, au contrôle et à la maintenance de ce point d'eau incendie du fait qu'il fera partie du patrimoine communal. Par ailleurs, la convention de partenariat financier 6 juin dispose des éléments suivants. L'équipement de défense extérieure contre l'incendie sera remboursé par Citex à la ville de Nangy à partir du moment où les essais de mise en service seront concluants. Citex devra fournir avant tout démarrage de travaux une copie de l'accord écrit des services d'incendie et de secours quant à l'utilisation de cet équipement pour sa propre défense incendie. Le montant des travaux s'élève à 4 374,30 € hors taxes, soit 5 249,16 TTC. Il est enfin à noter que le premier poteau incendie communal existant se situe de l'autre côté de la place de retournement de l'impasse Léon Blum et qu'un nouvel équipement de ce type situé au fond de cette place de retournement a son intérêt. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir délibérer en ce sens. Je vous remercie.
Merci, monsieur Cyprès. Des questions, des commentaires? Je mets donc la délibération aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vais repasser la parole à monsieur Godard pour la 107, qui concerne une demande de subvention auprès du département de Seine-et-Marne pour des travaux de reprise des voûtes sur croisées de la nef de l'église de Nangy.
Merci, monsieur le maire. En fin d'année 2017, les services techniques et la municipalité de Nangy ont constaté que les voûtes de la nef de l'église Saint-Martin de Nangy montrent des signes d'affaissement suite à d'anciennes infiltrations. Afin d'éviter leur effondrement, une entreprise est intervenue pour sécuriser cette partie. Le temps de trouver des solutions pérennes. Ainsi, en accord avec la Direction Générale des Affaires Culturelles, DRAC, de la région Île-de-France, il a été décidé de fermer l'accès à la nef au public pour des raisons de sécurité. Une estimation des travaux de remise en état des voûtes croisées de la nef a été réalisée et s'élève à 120 760 € hors taxes, soit 144 912 € TTC. L'église Saint-Martin, datant du XIIIe siècle et étant classée au titre des monuments historiques depuis 1989, peut bénéficier de subventions pour la remise en état des voûtes avec la participation du département de Seine-et-Marne à hauteur de 20% du montant hors taxe des travaux, soit 24 152 € et de la DRAC. La présente délibération a donc pour objet de solliciter une subvention auprès de la direction des politiques culturelles du Conseil départemental de Seine-et-Marne et d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué en charge du cadre de vie, des travaux et des réseaux de procéder à cette demande. Les conditions d'attribution des aides financières n'étant pas similaires, une demande de subvention sera adressée auprès de la DRAC ultérieurement. Il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir délibérer dans ce sens.
Merci Monsieur Godard. Des questions, des commentaires? Je n'en vois pas, donc je mets... Virginie se prépare pour la suite. Donc je mets aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? La délibération est approuvée à l'unanimité. La délibération 108, c'est donc Mme Salitra qui nous la propose, modification du règlement des marchés forains de Nangy.
Merci Monsieur le maire. La vocation des marchés hebdomadaires est d'offrir aux habitants de la commune un service complémentaire à celui proposé par les commerces implantés sur le territoire. Commerce implanté, il faut un S. Hein.
Oui.
Voilà, c'est juste au passage.
Allez. T'as raison.
Le règlement des marchés de Nangis date du 14 avril 2005. Afin de formaliser les mesures qui ont été apportées depuis, périmètre, commission des marchés, et préciser les règles relatives aux horaires, aux emplacements, à l'occupation du domaine public, à la nature des commerces, il convient d'actualiser ce règlement par une modification. Ce dernier a été révisé avec la participation de la commission municipale des marchés forains qui s'est réunie le 13 juin dernier. Les représentants des commerces ont été consultés lors de cette réunion. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la modification du règlement général des marchés forains de Nangis annexé à la présente délibération.
Merci. Y a-t-il des questions, des commentaires ? Bon, il y a eu un avis favorable, bien entendu, à la proposition de modification et émis unanimement par les participants à la commission municipale des marchés forains.
Simplement, dans le texte, ça n'a pas été souligné ce qui a été changé par rapport aux anciens. Donc,
écoutez, je ne peux que vous proposer d'essayer de demander à Madame Ogrizac de...
Je pense que ce n'était pas énorme. Hein. Non. Je pense que c'était sur le périmètre.
C'était beaucoup de précisions, des modifications quant aux horaires aussi, des précisions quant au rôle de la commission. Mais c'est vrai que c'est pas, on n'a pas bouleversé le règlement intérieur. Mais on demandera effectivement à ce que les modifications apportées soient mises en évidence. Hein, ce qui a été supprimé, ce qui a été rajouté. Je peux mettre aux voix qui s'y oppose, qui s'abstient. Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. La 109, tarif des droits de place de la redevance animation. Et, alors, tarif des droits de place de la redevance animation et de publicité et de la redevance déchets sur le marché forain à compter du 1er juillet 2018. Madame Salitra.
Conformément à l'article 19.2 du traité d'affermage des marchés forains adopté par le Conseil municipal en séance du 29 mai 2017, il est proposé de modifier les tarifs des droits de place, de la redevance d'animation et de publicité et de la redevance déchets à compter du 1er juillet 2018 de la façon suivante. Tarif des droits des places avec une hausse de 1,40%. Concernant les abonnés, donc sous la halle, ils devront payer 1,55 € hors taxe. Pour les volants, 1,87 € hors taxe. Pour les abonnés hors de la halle, 1,33 € hors taxe. Pour les volants, 1,76 € hors taxe. La redevance d'animation et de publicité reste stable. Par commerçant abonné ou non et par séance est fixée à 1 €. La redevance déchets est également stable. Pour le mètre linéaire de façade sur allée principale, transversale ou de passage et pour la profondeur maximale prévue est fixée à 0,28 € hors taxe.
Merci Madame Salitra. Alors je rappelle que l'évolution du tarif des droits de place est liée par une formule de révision annuelle hein, qui suit l'évolution du coût de la vie, donc qui est mécanique. Par contre, la redevance d'animation et de publicité, comme la redevance déchets, doit faire l'objet d'un avis favorable de la Commission pour pouvoir être modifiée. Or, moi, j'ai proposé la stabilité, dans la mesure où nous n'avions pas encore suffisamment de retour quant à l'animation sur la première année. Et quant à la redevance déchets, bon là, c'est encore un autre sujet. Hein. Nous avons, je dois dire, rencontré, et nous rencontrons encore, des difficultés, je qualifierais de majeures, avec le SMETOM. Première difficulté, alors que l'entreprise est en délégation de service public, les déchets qui sont emmenés sont des déchets de la ville. Normalement, ils ne sont pas soumis à tarification. Or, le SMETOM a profité du changement de délégataire pour facturer. Et le délégataire ne nous en a pas informé et a payé la facture, alors qu'il y avait visiblement sur ces factures des choses relativement improbables. Une part, on s'apercevait que certaines semaines, il pouvait y avoir 3 marchés, ou que les dépôts pouvaient être de 1 à 10, donc 10 fois plus de déchets d'un marché sur l'autre. Ça nous semblait relativement fantaisiste. Donc nous avons rencontré le président du SMETOM, la directrice, le directeur technique, pour nous étonner de ces pratiques et de dire qu'à moins que le SMETOM modifie sa position pour l'ensemble des marchés de son territoire, ne serions plus amenés à payer de factures sur ces déchets. Et puis, nous avons une difficulté pas plus tard que samedi, où les containers qui étaient mis à disposition par le SMETOM sur la parcelle Citraval débordaient. Donc le délégataire n'a pas pu tout décharger, donc il a fallu emmener une partie des déchets au service technique pour qu'elle soit emmenée aujourd'hui. Donc il faut je me tourne vers le représentant de la communauté de communes au SMETOM, il faut trouver des solutions un peu plus intéressantes que celles qui sont aujourd'hui mises en œuvre, quoi. Parce que s'il faut à chaque fois faire un tour par les services techniques et puis ensuite reprendre les recharger, c'est quand même pas très sérieux. Voilà. En tout cas, ça ne nécessite absolument pas l'augmentation de la redevance déchets, qui est plutôt prévue non pas pour payer le dépôt des déchets, mais pour en améliorer la collecte, notamment par l'utilisation d'un camion qui est compartimenté et permettant aussi bientôt de pouvoir collecter les biodéchets de façon très 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 spécifique, puisque là aussi il va y avoir un durcissement des normes. Voilà, petit commentaire en passant. Des questions? Des commentaires? Je mets la délibération aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Alors, la délibération dont le contenu a été légèrement modifié, Madame Molas va nous expliquer tout ça. Il s'agit d'une modification du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs pour les temps périscolaires, accueil pré- et post-scolaires.
Merci, Monsieur le maire. Par délibération numéro 2014, mai 103, le Conseil municipal a approuvé les deux règlements intérieurs relatifs aux temps périscolaires et extrascolaires. Ils rassemblent les informations relatives aux conditions d'admission, aux modalités d'inscription, au fonctionnement du centre, à l'accueil des enfants. Le règlement intérieur des temps extrascolaires, c'est-à-dire les mercredis et les vacances, est désormais remplacé par le règlement intérieur établi par la communauté de communes, la Brinongicienne. En ce qui concerne le règlement intérieur des temps périscolaires, la ZAPPS, c'est-à-dire avant et après l'école, il s'agit de modifier plusieurs paragraphes du fait des nouvelles modalités mises en place dans le fonctionnement des structures. Ainsi, les modifications portent sur les points suivants. Alors d'abord, sur les modalités d'inscription. Les parents n'ont plus à faire valider les admissions auprès des responsables des accueils de loisirs, qui restent bien évidemment disponibles. Pour les tarifs, le passage d'un tarif unique à un tarif suivant le quotient familial des familles, sur recommandation de la caisse d'allocation familiale, et la mise en place de la post-facturation. Ensuite, le nom de la responsable de la jourie. Bon, il a été pris en compte la nouvelle responsable de l'accueil de loisirs et de la jourie, c'est-à-dire Mireille Dossi. Par rapport à la reprise de l'enfant, harmonisation avec les pratiques énoncées dans le règlement intérieur de la communauté de la Brinongicienne, qui stipule que tout enfant peut être remis à une personne nommément désignée par les familles. Et quant à l'hygiène et la santé, il est précisé qu'en cas de protocole d'accueil individualisé de PAI, une rencontre avec la responsable de la structure devra être prévue. Il pourra notamment être demandé aux parents de prévoir un panier repas pour le goûter de l'enfant, pour éviter tout risque pour l'enfant, qui peut être allergique à un composant d'un gâteau, enfin bref. et pour éviter l'angoisse des animateurs, surtout ceux qui sont contractuels et qui ne connaissent pas forcément tous les enfants allergiques. Le dit règlement donc sera joint au dossier d'inscription, affiché et aisément accessible dans les différents lieux d'accueil. Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son adjointe à signer et à faire appliquer le nouveau règlement intérieur. Alors, dans les modifications qui ont été apportées par rapport au premier, enfin au document qui avait été déjà, comment dire, divulgué, il n'y avait pas grand-chose, simplement parce qu'on parle plusieurs fois du guichet unique, alors qu'on avait voté un changement de nom et qui s'appelle maintenant le guichet éducation, donc autant employer les bons termes. Et puis, parce que dans les formules de paiement, les modes de paiement, on avait oublié de préciser qu'on reçoit aussi les CESU pour les enfants de moins de 6 ans. Voilà, c'est tout.
Voilà. Donc, tout est clairement, toutes les modifications sont clairement précisées dans ce document. Des questions, des commentaires ? Non. Je peux mettre aux voix ? Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Donc, la modification est adoptée à l'unanimité. Alors, délibération 111, toujours Madame Hollas, demande de subvention dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, appel à projet, sécurisation des établissements scolaires du département de Seine-et-Marne, installation d'un interphone à l'école maternelle Noas. Propose de faire la même chose pour les délibérations 112, 113, 114, hein, puisque c'est à chaque fois des questions qui concernent... 113, 114 c'est autre chose.
Par circulaire du 25 novembre 2015 et instruction du 22 décembre 2015 et 29 juillet 2016, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l'Intérieur ont défini le cadre de leur coopération renforcée et l'ensemble des dispositifs mis en place pour sécuriser les écoles, les collèges et les lycées. Celle-ci précise les mesures à mettre en œuvre dans les établissements scolaires dans un contexte de menaces terroristes qui impose une vigilance renforcée et la nécessité d'assurer sur l'ensemble du territoire des mesures particulières de sécurité. Ce fonds interministériel étant prolongé pour l'année 2018, les travaux éligibles à la demande de subvention sont ceux nécessaires à la sécurisation des bâtiments. Dont 3 dossiers vont être déposés afin de solliciter une subvention à hauteur de 80%. Alors, premièrement, l'installation d'un interphone à l'école maternelle Noas. Le coût de l'opération s'élève à 4 120 euros hors taxes, soit un montant de 4 944 euros TTC. Le plan de financement s'établit comme suit. État, 3 955 euros TTC, c'est-à-dire 80%, et la commune de Nangis, 989 euros TTC, c'est-à-dire 20%. Ensuite, la deuxième demande concerne l'installation d'un interphone à l'école élémentaire Noas. Le coût de l'opération s'élève à 3 607 euros hors taxes, soit un montant de 4 329 euros TTC. Le plan de financement s'établit comme suit. État, 3 463 euros TTC, 80%, et commune de Nangis, les 20% restants, à 866 euros TTC. Et enfin, la demande d'installation d'interphone au groupe scolaire Le Château, c'est-à-dire un en maternelle et un autre en élémentaire. Le coût de l'opération s'élève à 7 046 euros hors taxe, soit un montant de 8 455 euros TTC, avec un plan de financement qui s'établit comme suit. État, 6 764 euros TTC, 80%, et la commune de Nangis, 1 691 euros TTC, 20%. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter ce fonds sur ces 3 projets.
Voilà. Nous avons déjà sollicité des fonds l'année dernière sur ces mêmes 3 projets, nous n'avons pas obtenu, mais nous continuerons de les solliciter. Des questions, des commentaires ? Oui.
Oui, merci.
Donc il a été annoncé au conseil d'administration de l'école du château primaire que les demandes de subvention de cette année n'avaient pas abouti. Alors avez-vous sollicité plusieurs entités auxquelles vous avez eu des réponses négatives? Et auquel cas allez-vous tout de même effectuer les travaux d'installation d'interphones dans les écoles?
Non, parce qu'il faudra qu'on attende une réponse à cette demande de subvention. Parce qu'on, on avait fait une demande de subvention l'année dernière. Celle-ci a été rejetée. Donc nous, on redéposons une demande de subvention. On devrait pouvoir obtenir une réponse cet été, parce que nous considérons que dans le cadre d'un plan Vigipirate, qu'il y a un fonds qui a été donc mis en place pour pouvoir faire face à ce type de demande, on considère qu'on devrait pouvoir quand même être éligible. Voilà, donc ça va retarder sans doute un peu le démarrage des travaux, mais on va d'ici là quand même étudier peut-être encore un petit peu plus sérieusement le dossier. Bon, on le saura, quoi. Voilà. On le mettra en œuvre quoi qu'il arrive. Ça, c'est pas, vous le mettez pas au compte rendu, parce qu'on tient quand même à solliciter la participation de l'État, quoi. Voilà. Bon, après, est-ce que c'est véritablement une mise en sécurité de l'école
du château, parce que c'est celle que mes enfants fréquentent. C'est vrai que côté RPA, c'est compliqué. Quand c'est fermé à clé, il n'y a aucun moyen de joindre. Voilà. Et quand le portail reste ouvert, ça laisse entrer qui veut, quoi.
Oui, alors. Bon, ça permettra de réguler un petit peu le comportement des parents. Hein, voilà. Très honnêtement, en sécurité antiterroriste, bon, il faudra trouver autre chose. Ah oui, parce que bon, c'est pas compliqué de sauter par le portail quand on est déterminé, malheureusement. Mais bon, voilà, allez. Mais en tous les cas, effectivement, pour permettre, c'est vrai qu'on nous dit souvent dans les conseils d'école que les parents d'élèves, certains, ont tendance à prendre l'école pour un service à horaire extrêmement illimité, hein, donc dans la façon effectivement d'amener l'enfant à l'école le matin en retard, et puis quelquefois de le laisser très très régulièrement. Alors pour récupérer l'enfant le soir, ça ne réglera pas forcément le problème, mais pour dissuader d'arriver trop en retard le matin, d'être contraint de passer par le petit portillon et là d'attendre qu'on réponde, bon, voilà. On va prendre en compte, mais si on peut être aidé, ce serait pas mal, parce que mine de rien, plus de 17 000 euros par les temps qui courent, juste pour mettre des interphones. Donc pas d'opposition, pas d'abstention. Donc les trois délibérations sont adoptées. On va passer donc à la délibération 114. Je passe la parole à M. Palancade.
Merci, M. le maire. La commune de Nangis est adhérente au syndicat intercommunal pour le fonctionnement des établissements du premier cycle du second degré du secteur de Nangis, le CIVOS. À ce titre, sa contribution au fonctionnement du syndicat s'élève à 55 138 euros pour l'exercice 2018, ce qui représente 64,34% du montant total de 85 700 euros de la contribution des communes adhérentes. Le CIVOS participe aux frais de fonctionnement des équipements sportifs de la ville à hauteur de 61 700 euros annuels pour 2018, en contrepartie de l'utilisation de ceux-ci par le collège. Une convention financière entre la ville et le CIVOS est établie afin de fixer les règles de la participation aux frais de fonctionnement. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire ou son adjointe a signé la convention financière entre le CIVOS et la commune de Nangis pour l'exercice 2018.
Merci, Monsieur Palancade. Des questions, des commentaires? Je mets aux voix la délibération. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Ensuite, donc, toute une série de délibérations concernant nos finances. La première est importante, contraction d'un emprunt auprès de la Caisse d'épargne d'Île-de-France. Madame Galochet.
Merci, Monsieur le maire.
Alors, lors de la séance du conseil municipal du 9 avril 2018, le budget principal a été voté avec un emprunt nouveau de 2 millions d'euros pour cet exercice. Une consultation a donc été lancée le 18 avril auprès de différentes banques, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, la Banque Postale, la Caisse d'Épargne Île-de-France, celles qui ont l'habitude de répondre aussi aux sollicitations des collectivités locales, avec une date limite de réception des offres fixée au 18 mai 2018. Toutefois, les offres ont été réactualisées jusqu'au 4 juin, date de la commission des finances. Un tableau comparatif des offres a d'ailleurs été présenté et étudié lors de cette commission du 4 juin, qui a émis un avis favorable à la proposition de la Caisse d'épargne d'Île-de-France, car la mieux-disante. Alors, les caractéristiques de ce prêt vous sont rappelées et sont donc les suivantes. Durée 20 ans, mais il y a une première phase de préfinancement de 12 mois et une deuxième phase d'amortissement de 19 ans. Un amortissement du capital qui sera progressif, une périodicité trimestrielle, des frais de dossier de 0,05%, donc 1000 euros. Type de taux fixe, taux d'intérêt 1,65%. La base de calcul des intérêts est de 30/360 et le déblocage des fonds est limité à 3 versements maximum. Il est proposé au Conseil municipal de suivre l'avis de la Commission de finances en approuvant la contraction de cet emprunt auprès de la Caisse d'épargne d'Île-de-France.
Merci Madame Galochet. Donc on a effectivement discuté lors de la Commission des finances. Y a-t-il des commentaires, des questions ? Je mets donc la délibération aux voix. Qui s'y oppose ? Qui s'abstient ? Il est adopté l'unanimité. Je vous remercie. La 116 concerne le contrat intercommunal de développement. Demande de transfert de l'enveloppe sollicitée dans le cadre de la requalification du trottoir impair de l'avenue de Maréchal Foch à la construction d'une restauration scolaire ou scolaire Léon Signaux. Madame Galochet, toujours.
Alors, pour rappel, par délibération numéro 2016-29-22 du 14 avril 2016, la communauté de communes de la Brune-Angicienne a décidé de se porter candidate auprès du département de Seine-et-Marne pour l'élaboration d'un contrat intercommunal de développement, CID, qui bénéficie d'une enveloppe totale d'1 385 721 euros, se décomposant ainsi qu'il suit. 60% du montant pour la CCPN, 831 432,60. 40% du montant qui reste pour Nangy, Mormant, Verneuil-l'Étang, soit 554 288,40 €, qui se répartit également entre les trois communes au prorata des habitants, soit Nangy 52%, 288 277 €, Mormant 28%, 155 444 €, et Verneuil-l'Étang 20%, 110 568. La commune de Nangy a élaboré donc son programme d'action en concertation avec la communauté de communes de la Brune-Angicienne et à ce titre a proposé 3 actions. Requalification du trottoir père de l'avenue du Maréchal Foch pour un calendrier prévisionnel 2017-2018, 184 000 € avec une subvention demandée de 73 600 €, soit 40%. Requalification du trottoir impair de l'avenue du Maréchal Foch pour un calendrier prévisionnel 2018-2019 pour 253 500 € en coût total estimé hors taxe et une subvention égale à 27,83%, soit 70 539 €. Et enfin, la construction d'une cantine à l'école des Rossignols, également pour un calendrier prévisionnel 2018-2019, pour un coût estimé à l'époque de 672 000 €, soit une subvention de 21,45%, 144 138 €. Il vous est effectivement rappelé que nous ne pouvons pas dépasser 70% de fonds publics dans le cadre de ces opérations CID. La commune de Nangy est maître d'ouvrage de l'ensemble de ces actions et à ce titre est signataire du contrat cadre comme l'ensemble des maîtres d'ouvrage des actions inscrites dans le programme d'action du CID. Chaque action fait l'objet d'une convention de réalisation signée entre le maître d'ouvrage et le département. À ce titre, une première convention de réalisation a été régularisée le 19 février 2018 au titre de la requalification donc, de l'avenue du Maréchal Foch pour son côté père. Le lancement du dossier relatif à cette requalification avait prévu un démarrage pour 2017, mais a pris du retard. Il a donc été pris le parti de lancer les deux opérations de requalification, côté pair et impair, dès 2018. Dans l'attente de la régularisation de la convention de réalisation, il a été sollicité du président du conseil départemental une dérogation pour démarrage anticipé des travaux, laquelle n'a pu être obtenue dans la mesure où ce démarrage s'est trouvé concomitant à la demande. Par contre, le département propose de reporter l'enveloppe qui était réservée pour la réfection des trottoirs côté impair sur une autre opération qui pourrait être réalisée pendant la durée du CID. Il vous est donc proposé de faire glisser cette enveloppe sur le projet de construction de la restauration scolaire au groupe scolaire des Roussignaux, troisième action prévue au CID. Cette opération sera reprise pour sa dernière estimation portée à l'avant-projet transmis au Conseil départemental, soit 1 245 232,24 €. Et donc, dans le corps de la délibération, on vous remet les deux opérations pour leur montant estimé hors taxe définitif et donc le montant des subventions demandées, qui reste toujours égal à 288 277 €.
Merci, Madame Galochet. Bon, j'aime bien dire les choses un peu directement. Ce refus de nous accorder une dérogation au démarrage des travaux était acquis avec les services du département. Nous avions 4 jours de décalage. Voilà. Donc, effectivement, le département est en droit de le refuser. Je m'étonne que techniquement, que les services du département, c'était possible, mais que politiquement, ça ne le soit pas. Bon, ça n'a pas une conséquence majeure, sauf, vous allez le voir, de diminuer notre demande de subvention auprès de l'État, puisque le département a des exigences particulières dans le cadre du CID. La loi dit qu'un maître d'ouvrage ne peut pas prétendre à plus de 80% de subvention. Le département, dans le cadre du CID, engage les communes à ne pas demander plus de 70% de subvention. Je le dis parce que ce n'est pas une obligation pour le département d'agir ainsi, le cadre de la loi étant, à mon avis, déjà suffisamment restrictif. Et donc, comme nous étions calés sur 70% de subventions en ce qui concerne le projet des Roussignaux, le fait de ramener un peu plus de subventions du département nous amène à diminuer notre demande auprès de l'État. Alors, cela étant, la demande auprès de l'État, pour le moment, nous n'en avons toujours aucune réponse, aucun signe. Voilà, bon. Bon, je trouve ça un petit peu dommage, et bon, j'ai quelques suspicions quand même sur cette affaire-là. Mais bon, c'est sûrement des mauvaises interprétations. Voilà. On s'en tiendra là. Des commentaires, des questions? Non, je mets aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Délibération est adoptée à l'unanimité. Donc, ce qui amène à la 117. Hein, donc, remplace et annule la délibération en date du 5 mars 2018 relative à la demande de subvention dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement public local pour le travaux de construction de restauration scolaire au groupe scolaire Les Roussignaux. Madame Galochet.
Alors, par la délibération qui précède, il vous a été demandé de bien vouloir délibérer sur le transfert de l'enveloppe réservée pour la requalification du trottoir côté impair de l'avenue du Maréchal Foch sur l'opération de construction d'une restauration scolaire au groupe scolaire des Roussignaux dans le cadre du contrat intercommunal de développement CID élaboré en concertation avec la CCPN et présenté auprès du département de Seine-et-Marne. Pour mémoire, cette enveloppe représente un montant de 70 539 €. Or, l'opération de construction de la restauration scolaire des Roussignaux fait également l'objet d'une demande d'aide financière auprès de l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement public local, DSIL, pour 2018 et au moyen d'une première délibération prise sous le numéro 2017-188 en date du 18 décembre 2017, puis d'une seconde modificative prise sous le numéro 018-2018, mars 025 en date du 5 mars 2018. afin de respecter le plafond maximal d'aide publique, soit 70%, critère imposé pour répondre aux CID, il convient de revoir donc à la baisse l'aide financière sollicitée auprès de l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement public local, et il vous est demandé de bien vouloir délibérer sur le montant révisé de cette aide sollicitée et sur le nouveau plan de financement qui a été arrêté et donc qui fait partie du corps de la délibération qui vous est adressée.
Merci Madame Galochet. Des questions, des commentaires? Je mets aux voix cette délibération. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. La 118, une décision modificative, la numéro 1 au budget de la commune en section de fonctionnement et d'investissement pour l'année 2018.
Voilà, en fait la 118 et la 119 sont intimement liées. Pour mémoire, je vous rappelle que au 1er janvier 2018, nous avons dû ouvrir des budgets annexes pour notamment les activités culturelles et également pour toutes les activités du centre nautique. Or, effectivement, au 1er janvier 2018, on n'a pas pu passer de l'écriture des premiers paiements de factures ou les premiers encaissements de recettes, puisque par hypothèse, le budget n'était pas voté. Donc il avait été prévu de repasser encore sur le budget général les trois premiers mois et demi de gestion de ces activités culturelles et de centres nautiques. Or, évidemment, après avoir passé toutes les écritures, les budgets y ont été votés. Après avoir passé toutes les écritures, il s'avère qu'il faut renettoyer un petit peu. On a renettoyé au niveau des TVA déjà pour commencer, et puis il faut renettoyer également au niveau des changements d'imputation qui étaient restés sur le budget de la ville pour une somme de 9 500 euros au niveau des redevances, concessions, brevets, etc. Donc ce qui est tous les droits que l'on paye, SACEM et autres. Donc il va falloir diminuer évidemment donc du budget ville pour les reporter sur le budget du centre nautique, puisque ça avait été en fin de compte omis. Hein. Et puis on renettoie également au niveau de nouvelles recettes de TV. Ce qui fait que dans la décision modificative numéro 118, qui est afférente au budget ville, on enlève donc des dépenses et aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Donc en fonctionnement, on arrive à un équilibre budgétaire de 4 116 euros, pour les planter donc par conséquent en recettes à même, pour même somme. Et on enlève des immobilisations corporelles en budget d'investissement une somme de 1 884 euros. Par le biais donc des virements des sections d'investissement et de fonctionnement. Et comme vous pourrez le constater après, dans la délibération numéro 119, on reporte hein, cette somme de 9 500 euros sur le budget du centre Aqualude, et on reporte également donc l'excédent du budget à recevoir de la ville pour 15 500 euros. Du coup, on en profite pour remonter un peu de matériel informatique qui sera affecté au centre aquatique pour 6 000 euros, voilà, en gros.
Voilà pour les délibérations 118 et 119. Y a-t-il des questions, des commentaires? Donc je les mets aux voix, hein, ensemble, puisqu'elles sont liées. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elles sont adoptées à l'unanimité, je vous remercie. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur Moreau concernant la délibération 120, hein, qui a été un petit peu modifiée. Elle concerne le budget annexe des activités culturelles, la création d'une carte d'abonnement et la création de tarifs pour les stages et ateliers organisés par le service culturel à compter du 1er septembre 2018.
Oui, monsieur. Merci, monsieur le maire. Donc, dans une volonté d'attirer un public toujours plus nombreux, il est proposé la création d'une carte d'abonnement qui permet à son titulaire de bénéficier d'un tarif réduit sur les spectacles et les séances de cinéma. Deuxième point qui est un peu différent. Par ailleurs, le service culturel organise des stages et des ateliers qui étaient jusqu'à présent entièrement gratuits, l'effort financier étant porté par la ville. Il est donc proposé la création de tarifs spécifiques pour les activités susvisées, excepté pour les nangiciens, qui pourront toujours accéder gratuitement à ces ateliers. Donc, en hors-taxe, pour les stages et ateliers pour les nangiciens, comme je viens de le dire, c'est gratuit. Pour les membres de la CCBN, c'est 4,74 € hors taxe par jour. Et pour les hors CCBN, 9,48 € par jour. Et puis pour les tarifs pour l'obtention d'une carte d'abonnement donnant accès aux tarifs réduits sur tous les spectacles et séances de cinéma hors taxe, ce sont deux pour les non-gyciens 9,48€, la CCBN 18,96€, hors CCBN 28,44€. Et comme nous avons eu l'énorme privilège de bénéficier de la TVA, je vais vous les donner en TTC. Donc pour tout ce qui est stage et atelier, non-gyciens gratuité, CCBN 5€, hors CCBN 10€, et pour la carte de réduction, non-gyciens 10€, CCBN 20€, hors CCBN 30€. Et c'est celle qui a été remise sur table, hein, qui avait été légèrement modifiée, pardon, j'aurais pu le dire en introduction, et donc sur la dernière page. Enfin, dans une volonté de promouvoir les activités de l'espace culturel de la ville et de remercier ses partenaires, il est proposé au conseil municipal de créer l'opportunité de pouvoir offrir gratuitement cette carte d'abonnement aux partenaires qui travaillent régulièrement avec le service culturel, par exemple les enseignants, bénévoles associatifs, membres du comité consultatif culture, etc., etc. Bien évidemment, cette délibération vient compléter la délibération numéro 2017-959 qui, elle, traite des tarifs 2018.
Voilà, merci Monsieur Moreau. Donc des questions, des commentaires, on n'en voit pas. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération 121, il s'agit du renouvellement de l'adhésion au Fonds de solidarité logement. Simone Jérôme.
Comme tous les ans, la même chose.
Ah oui, tous les ans. Oui.
La loi numéro 2004-809 du 13 août 2004 a donné pleine compétence au département en matière de fonds de solidarité logement, le FSL, depuis le 1er janvier 2005. Le fonds de solidarité logement permet aux familles relevant du plan départemental d'action pour le logement des personnes démunies d'accéder à un logement, de s'y maintenir et ou de bénéficier de mesures d'accompagnement social liées au logement, la SSL. Pour y adhérer, la participation des communes est fixée à 0,30 € par habitant pour toute la commune. Le nombre d'habitants au recensement de l'année 2018 sur le territoire communal étant de 8694 habitants, la cotisation annuelle s'élève à 2608 €. Comme pour les précédentes années, une convention portant sur l'adhésion de la commune de Nangis au Fonds de solidarité logement pour l'année 2018 doit être signée avec le Conseil départemental de Seine-et-Marne si le Conseil municipal renouvelle son engagement. Ainsi, il est proposé de renouveler cette adhésion et d'autoriser Monsieur le maire ou son adjointe à signer la convention renouvelant l'adhésion au Fonds de solidarité logement pour l'année 2018.
Merci Madame Jérôme. Des questions, des commentaires sur une délibération annuelle? Je mets aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. La délibération 122, réactualisation des loyers des logements communaux. Madame Galochet.
Merci Monsieur le maire. Attention à la carte. La commune de Nangis dispose dans son patrimoine de logements qu'elle gère en qualité de bailleur. Bien que ces logements puissent fournir des solutions durables à des personnes en situation précaire, ils répondent également à des besoins bien précis tels que le logement de fonctionnaires d'État, enseignants, gendarmes, des personnes vulnérables justifiant un relogement d'urgence ou encore plus récemment l'accueil des migrants sur la commune. Comme chaque année, il convient de réactualiser le montant des loyers des logements communaux sur la base de la variation de l'indice de référence des loyers, IRL, publié par l'INSEE, selon la formule suivante, loyer révisé égale le loyer appliqué multiplié par l'IRL du premier trimestre 2017 et divisé par l'IRL du premier trimestre 2018. L'IRL du premier trimestre 2017 était de 125,90, celui du premier trimestre 2018, donc ce sont les derniers connus, hein, 127,22. Donc sur la base des éléments énoncés, il est proposé au Conseil municipal de voter la réévaluation des tarifs communaux par typologie de logement comme suit. Donc le tout hors charge, logement de type F3, 425,37€, de type F3 de plus de 90 m², 710,67€, le F4-517-11, le pavillon F4-557-43, le logement d'urgence de type F1-279-20. Les autres dispositions relatives à la facturation des charges et aux situations de relogement d'urgence des personnes en situation précaire restent inchangées par rapport à la délibération précédente qui portait le numéro 2017-034 du 6 mars 2017. Donc il vous est demandé, proposé de réactualiser les loyers des logements communaux tels qu'ils ont été présentés.
Merci, Mme Galochet. Mme Salitra.
Concernant le logement de type F3 de 490 m², 70,67 euros, ça me paraît, enfin, par rapport à F4,
517,
le F4 est moins cher.
Oui, mais c'est ce qu'on appelle un logement d'exception, un peu.
Un logement d'exception, et puis de toute façon, cette révision se fait évidemment toujours de la même façon, hein. Mais en fait, en prenant à la base les loyers quand ils ont été déterminés il y a quelques années déjà, hein. Voilà, il y avait déjà cette différence entre le type F3 qui est vraiment en duplex, je crois, et puis le pavillon par lui-même. Hein.
Je rappelle que c'est le logement de l'ancien logement de fonction de notre comptable public au-dessus voilà. Bon, il est un peu hors norme, hein, il avait été un peu taillé sur mesure. Voilà, mais il est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand que les autres. Et plutôt pas mal. Mais même à 700 euros, c'est une affaire. Quand vous voyez ce qu'on peut louer à 700 euros dans le marché locatif privatif, à 700 euros, vous avez un taudis dans certains endroits. Hein. On a encore remontré des photos d'un appartement rue du Général Leclerc sur deux niveaux. Le premier niveau, il est totalement aveugle. Il n'y a pas d'ouverture à part la porte. Et oui, voilà, il est à 700 euros plus les charges. Quelque chose, à mon avis, lorsqu'on arrivera à un changement de locataire, on ira regarder ça du point de vue du permis de louer. Hein. D'autres commentaires ? Je mets aux voix qui s'y oppose, qui s'abstient. Il est adopté à l'unanimité. La 123, réactualisation du dépôt de garantie. Oui, Madame Hollas, excusez-moi.
Délibération précédente. Parce qu'il y a un petit truc.
Sur
l'adhésion au fonds de solidarité de logement 121. Dans la notice explicative et dans la délibération, on dit que la participation des communes est fixée à 0,30 centimes d'euros. Et dans la convention, c'est marqué 0,30 euros. C'est pas la même chose.
Oui, c'est. Non, c'est. Oui, mais.
C'est 30 centimes. Il faut enlever le 0,30
centimes. C'est 30 centimes ou 0,30 euros ?
C'est 30 centimes, mais dans la notice et puis dans la délibération, il est marqué 0,30 centimes d'euros. Ça porte à confusion. Ou 30 centimes ou 0,30 euros.
Oui, non, mais dans la notice explicative, c'est pas grave, c'est vérifié.
Non, c'est dans la délibération, voilà.
Dans la délibération, on est.
Je sais pas où elle est d'ailleurs, la délibération. Oui, ben oui, il n'y a pas de.
Eh oui, on a essayé. Non, vous avez raison, Madame Jérôme, il faut toujours essayer. Hein. T'aurais peut-être pu passer, mais non, c'est 0,30 euros. Merci, Madame Hollas, d'être vigilante. Bon, mais du coup, ça nous coûte plus cher. Madame Galochet, la 123.
La 123, réactualisation du dépôt de garantie pour la mise en location des logements communaux. Résultant de la délibération du Conseil municipal numéro 2005-223 en date du 19 décembre 2005, la commune de Nangy demande systématiquement à chaque mise en location d'un logement communal un dépôt de garantie, qui semble normal. Le dépôt de garantie intervient uniquement dans l'hypothèse où des travaux de remise en état des logements sont nécessaires au moment de la restitution des clés par le locataire. Dans la mesure où les dispositions de la loi tendant à améliorer les rapports locatifs du 6 juillet 89 ont évolué, notamment dans son article 22 relatif au dépôt de garantie, convient de réactualiser la réglementation locale en rapportant l'ancienne délibération. Ainsi, le dépôt de garantie qui sera appliqué ne pourra pas être supérieur au montant d'un mois de loyer en vigueur et tiendra compte du contexte des baux à venir ex-logement d'urgence. Pour mémoire, parce que ça n'a pas été reporté dans la notice explicative, mais en fait, par la délibération du 19 décembre 2005, le dépôt de garantie était de 2 mois, donc ce qui est illégal en fait. Hein. Donc il est proposé au Conseil municipal d'approuver ces nouvelles dispositions relatives au dépôt de garantie des logements communaux.
Voilà, bon, c'est une délibération de forme, puisque normalement on est quand même censé appliquer la loi. Donc, bon, voilà.
Oui, les baux étaient bien d'un mois, mais on était
bien. Oui. Bon, allez, voilà. Bon, mais,
en conformité.
On toilette, comme dirait Sylvie, on toilette. Des questions, des commentaires? Alors, je mets aux voix qui s'y oppose, qui s'abstient, est adopté à l'unanimité. Alors, nous avons la délibération 124. Passer la parole à Monsieur Hué pour vous proposer de soutenir le Conseil des Sages afin de participer à l'émission télévisée Silence, ça pousse, dans le cadre d'un projet d'embellissement floral du parc et des douves du château de Nangy.
Merci, Monsieur le maire. Lors de sa dernière séance en date du 25 mai 2018, le Conseil des Sages de Nangy a travaillé conjointement avec le Conseil local de la jeunesse sur un projet d'embellissement floral du parc de la mairie et des douves du château. Ce projet s'inscrit dans la continuité de l'aménagement du parc avec les appareils streetwork et le jeu de cordes arbrani. Cela permettra non seulement d'améliorer le cadre des promenades autour de ces deux sites et de mettre en valeur le patrimoine historique de la ville. Le Conseil des Sages a émis plusieurs pistes pour permettre la réalisation du projet, telles que la création d'un parcours attractif qui incite à la promenade par la plantation de différents végétaux ou encore l'organisation d'une fête des plantes à Nangy. La réalisation de cet embellissement se fera en collaboration avec les services techniques de la ville et en recherchant le partenariat avec les écoles de la ville, le lycée agricole de Brie-Comte-Robert, l'association Aquibri, le CAUE 77 ou encore Grand Paris Aménagement. Fort du succès de l'émission télévisée Silence, ça pousse, suivi par les jardiniers amateurs et les passionnés de la végétation, le Conseil des Sages a souhaité faire acte de candidature pour bénéficier de l'aide de spécialistes en aménagement floral et contribuer à la réussite du projet. Cette participation sera aussi une opportunité pour faire découvrir la ville de Nangy et son territoire au grand public. Il est donc proposé au Conseil municipal de soutenir la candidature du Conseil des Sages pour participer à cette émission télévisée sur ce projet. Je vous remercie.
Voilà, ou en tous les cas, pour permettre au Conseil des Sages de candidater. Hein, parce que bon, on n'est pas forcément sûr qu'on soit pour autant retenu. Des questions? Des commentaires? On encourage? Alors, qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Il n'y a plus qu'à. Alors, toujours un petit peu dans l'idée aussi de valorisation du travail accompli, et là, voici aussi par nos services, je vous propose la candidature à la 17e édition des Trophées de la communication pour l'année 2018. Les Trophées de la communication est un concours national s'adressant aux métiers de la communication organisé par l'association Excom, organisme de loi 1901 à but non lucratif et indépendant. Elle vise à récompenser les organismes privés, entreprises, agences de communication et publics, collectivités territoriales, établissements publics, pour la qualité de leur communication à travers 32 catégories. Pour la première fois, la communauté d'énergie a été remarquée par l'un des membres du comité de sélection pour la qualité de sa communication. Il nous a pas Il n'a pas été indiqué exactement qu'est-ce qu'ils avaient remarqué, hein, mais on pense que ça peut être le site internet, le magazine municipal, certains portages d'événements, et sélectionné à concourir à la 17e édition des trophées de la communication parmi les communes de 5 000 à 20 000 habitants. Pensons que cette candidature sera l'opportunité de reconnaître et de valoriser le travail quotidien réalisé par le service communication. De plus, si la commune fait partie des lauréats, elle pourra utiliser le label de ce concours sur tous ses supports de communication. Le MSPT propose de candidater dans les trois catégories suivantes. Meilleur site internet des mairies de 5 000 à 20 000 habitants. Meilleure réalisation audiovisuelle, photo, audio, vidéo, notamment pour la façon un peu originale que nous avons de présenter la saison culturelle, et meilleur bulletin municipal des mairies de moins de 10 000 habitants. Pour confirmer la participation de la commune, un dossier sera envoyé avant le 8 octobre 2018 et la commune devra s'acquitter des frais d'inscription s'élevant à 229 € pour une catégorie et 129 € pour chaque catégorie supplémentaire, soit un montant total de 487 €. Proposer au conseil municipal de répondre à cette invitation et de confirmer sa candidature à ce concours. Des questions, des commentaires? Je mets la délibération aux voix. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Alors, nous avons en questions diverses. Ah non. On a deux délibérations supplémentaires, la 126 et la 127. Je vais passer donc la parole à M. Veller.
Merci, M. le maire. Il s'agit donc de deux délibérations qui ont été rajoutées sur table, la numéro 126 et la numéro 127, qui traitent d'ailleurs du même sujet. Puisque M. le maire l'a annoncé tout à l'heure, le poste de directrice du multi-accueil va se libérer. Et pour cela, nous avons donc besoin de délibérer ces deux textes. D'abord, la création de postes, c'est l'objet de la délibération numéro 126. Dans le cadre du recrutement de la nouvelle directrice de la structure du multi-accueil, il est nécessaire de créer un poste de cadre de santé paramédical de deuxième classe à temps complet, et donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer dans ce sens.
Merci, Monsieur Veller. Donc nous aurons donc un poste de cadre de santé paramédical deuxième classe.
Nouvelle appellation.
Bon, ça jette.
Auparavant, c'était cadre de santé ou cadre supérieur de santé.
Voilà. Y a-t-il des questions, des commentaires? Je mets aux voix. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Maintenant qu'on a créé le poste, il faut quand même qu'on puisse le rémunérer.
Donc, oui.
C'est l'objet de la délibération 127.
C'est l'objet de la délibération numéro 127. Puisqu'il s'agit de modifier la délibération du numéro 2013 de mars, numéro 042, relative au régime indemnitaire pour le cadre d'emploi de puéricultrice. Donc, dans le cadre du recrutement d'une directrice de multi-accueil détenant le grade de puéricultrice cadre territorial de santé paramédicale, il convient d'élargir l'attribution du régime indemnitaire prévu par la délibération numéro 2013 mars 042 à ce cadre d'emploi, et il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer dans ce sens.
Aussi des questions, des commentaires? Je mets aux voix la délibération. Qui s'y oppose? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Nous allons maintenant pouvoir passer aux questions diverses. Une note d'information relative à la mise à disposition des agents municipaux auprès de la Caisse des écoles de Nangy. Alain nous la présentera. Une note d'information relative à la création d'une nouvelle structure d'aire de jeu au parc du Château. C'est Anne-Marie qui nous la présentera. Et nous aurons également une proposition de motion proposée par le groupe des élus socialistes et apparentés relative à la limitation de la vitesse des véhicules automobiles à 80 km/h. Et c'est M. Cyprès qui s'en chargera. Alors, Alain Veller.
Depuis l'année 1996, c'est une information bien évidemment comme d'habitude, depuis l'année 1996 pour le CCAS de Nangy en délibération du 28 novembre 1996 et l'année 1999 pour la Caisse des écoles de Nangy Délibération du 26 janvier 1999, des agents communaux ont été mis à disposition réglementairement auprès de ces établissements après avis de la commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Conformément à l'article 1er du décret numéro 2008-580 du 18 juin 2008, l'Assemblée délibérante de la collectivité territoriale est informée préalablement des mises ou renouvellements de mises à disposition du personnel communal. À ce titre, et pour l'année 2018, est mise à disposition auprès de la Caisse des écoles de Nangy, à compter du 30 août 2018, deux agents spécialisés des écoles maternelles principaux de deuxième classe à temps complet.
Voilà. Des questions ? Donc l'information a été faite. Madame Molas, information conseiller municipal concernant cette nouvelle aire de jeu.
Oui. Le Conseil des sages a exprimé le souhait d'installer un jeu à cordes, type nid perché, afin d'étoffer la diversité ludique des jeux existants du parc. En effet, ce type de jeu vient compléter les activités ludiques des structures existantes qui sont essentiellement destinées aux jeunes enfants, mini-parc, toboggan, et adolescents, parcours de santé. L'installation de ce jeu vise le développement du parc jeu de la commune tout en prenant en compte le développement durable puisque le sol de cette future structure sera constitué de copeaux de bois. À la suite d'une mise en concurrence de plusieurs prestataires, l'offre de l'entreprise Récréaction, située à Bussy-Saint-Martin, 77-600, a été retenue pour un montant de 24 874,91 € hors taxes, soit 29 849,89 €.
Voilà, et pour que votre information soit totale, ce jeu sera ouvert au public jeudi matin. Et à 18h, officiellement, il y a eu quelques visiteurs depuis, mais bon, on essaie de, qu'il ne soit pas massivement utilisé afin que tout sèche bien. Hein. Donc, une ouverture jeudi matin, on retire les barrières, et jeudi soir à 18h, le Conseil des Sages, le Conseil local de la jeunesse aussi, est invité à l'EL Vert, et donc vous êtes bien entendu tous invités jeudi à 18h. Voilà, et vous avez peut-être reçu aussi des invitations pour demain à 19h30, une concertation sur site avec les habitants de l'allée du chemin de la gare. Donc là aussi, vous êtes les bienvenus. Alors, une proposition du groupe des élus socialistes et apparentés, donc vent debout contre la limitation à 80 km/h.
Merci, monsieur le maire. Le gouvernement vient de décider la réduction de la vitesse des véhicules automobiles à 80 km/h. Cette mesure amène notre groupe à s'interroger sur les points suivants. La façon dont la décision a été prise, son application par des sociétés privées. En ce qui concerne la décision, elle nous semble avoir été prise précipitamment, sans qu'une large concertation ait été faite. Elle a été surtout provoquée par des pressions de lobbying, loin des intérêts de l'ensemble de la population. Nous ne nous étalerons pas sur les difficultés que cela va entraîner sur les routes en matière de dépassement de poids lourds notamment, ceux-ci pouvant rouler à la même vitesse, alors qu'ils ont un compteur qui est étalonné juste à 80 km/h. Ceux des voitures, les nôtres, sont surestimés. Ça fait qu'on va se faire pousser par les camions. Ça, je le rajoute. Qu'en sera-t-il des dépassements en côte ? Les bouchons que cela va entraîner ne sont pas négligeables. Une concertation réelle aurait pu évoquer toutes ces difficultés. Quant à son application, nous entrons dans une phase de déni de justice confiée à des sociétés privées qui ne seront plus soumises à la justice mais à l'appréciation d'une soi-disant intelligence artificielle. Les voies de recours ne dépendront plus d'un magistrat judiciaire mais d'un financier chargé de faire fructifier le butin. Notre démocratie ne doit pas permettre une telle forfaiture. Merci.
D'accord. Bon, voilà une façon bien vive de lancer le sujet. Évidemment, si le conseil municipal adoptait cette motion, il faudrait la modifier un peu, et notamment remplacer notre groupe par notre conseil municipal. Vous avez la parole, mes chers collègues. Bon, ça ne suscite pas trop le débat. Est-ce que ça signifie que tout le monde est d'accord avec cette appréciation ? Bon, écoutez. Donc, il faudra réécrire. Cette mesure amène notre conseil municipal à s'interroger sur les points suivants. Voilà. Donc, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions. Donc, un avis contraire. Eh bien, voilà. C'était notre coup de gueule du soir.
Juste concernant les dépassements en côte, pourquoi les dépassements en côte, les dépassements tout court, en fait, parce qu'en fait, les camions, maintenant, ils vont pouvoir nous doubler.
Bon, je vous propose peut-être de ne pas refaire de l'écriture de texte à cette heure-là. Si je peux me permettre, vous l'avez reçu, donc vous aviez la possibilité de... Voilà, c'est pour ça qu'on vous envoie les documents avant. Hein.
Monsieur le maire, si je puis me permettre, je suis revenu cet après-midi de Lyon, en partie par autoroute, et volontairement en partie sur la route, très précisément sur le trajet entre Chalon-sur-Saône et Avallon. Bon, déjà pour dire que bon nombre d'automobilistes ne respectent pas la limite de vitesse, ça c'est évident. Mais cela étant, pour parler du danger que ça peut apporter, j'ai vu effectivement des automobilistes qui respectaient le 80 km avec un camion collé juste derrière. Et effectivement, à plusieurs reprises, je veux dire, hein, pas une seule fois, hein, à plusieurs reprises, et donc on a des camionneurs qui ont des mouvements d'impatience, des klaxons et des vociférations, semble-t-il, et donc je me dis qu'effectivement, à certains moments, ça risque de poser quelques problèmes. Ça, c'est une réalité.
Très bien. Monsieur Saussier qui a voté contre mais qui ne s'est pas exprimé. Allez.
Je vais m'exprimer. Peut-être sans micro. Oui, ça marche. Oui, je veux dire, on retrouve en ce moment les débats qu'on a pu avoir pour certains qui avaient leur permis à l'époque, les mêmes débats qui ont précédé la mise en place de la ceinture de sécurité qui aujourd'hui est appliqué par l'ensemble et qui a sauvé beaucoup de vies, les mêmes débats qui ont précédé la mise en place du 90 km/h, qui lui aussi a sans doute sauvé une multitude de vies. Alors aujourd'hui, effectivement, bon, on passe de 90 à 80 km/h. 90 à 80 km/h, c'est quoi ? Sur un trajet d'une demi-heure, je veux dire, vous faites Nangy-Melun. C'est pas tout à fait une demi-heure, je veux dire, c'est 35 km. En plus, vous avez les traversées de deux agglomérations, trois agglomérations d'ailleurs, hein, Fontenailles, La Chapelle-Gautier, Châtillon-la-Borne, où les limites de vitesse sont restées à 50 km/h. Rappelez-vous du débat qu'on a pu avoir lorsqu'on est passé de 50 km/h à 60 km/h dans ces agglomérations. Donc pour un trajet Nangy-Melun, c'est à peine 2 minutes de différence entre le 90 et le 80 km/h. Donc, bon, alors effectivement, on a l'impression dans les véhicules que l'on a aujourd'hui de se traîner, excusez-moi du terme, mais bon, voilà, on passe à 80 km/h et il y a aussi beaucoup de pays qui ont adopté ces mesures. Voilà. Et moi, je veux dire que si ça sauve une vie, 10 vies, 100 vies, eh ben, c'est autant de gagner. Voilà. Je veux dire que chaque mesure qui contraint l'automobiliste dans sa voiture veut des libertés, etc. Ben, je regrette. C'est une contrainte, effectivement, le 80 km/h. Il n'y aura pas plus de bouchons. Je veux dire que, attendez, vous n'avez pas été poussé par des poids lourds quand vous étiez à 90 km/h hein, sur la route. Le dépassement en côte, je suis désolé, de toute façon, personne ne vous interdit de doubler un poids lourd en dépassant la vitesse de 80 ou celle de 90 km/h uniquement pour dépasser. Donc voilà, ouais, ça c'est mon opinion. Hein.
Merci, monsieur Saussier. Bon, ça réveille un peu le conseil. Monsieur Murat, s'il vous plaît.
Merci, monsieur le maire. Bon, moi, ça fait quelques années que j'emprunte très souvent la nationale 151 qui va de Auxerre jusqu'à Clamecy. C'est du réel. Je l'ai connue à 90 et je l'ai connue à 80 km/h. Parce que ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'elle est en 80 km/h. Elle fait partie de ce réseau expérimental. Soit disant qu'elle est accidentogène. Moi, sur cette partie à Auxerre-Clamecy, j'ai jamais eu un accident. Qui plus est, la préfecture de Lyon, conjointement avec la préfecture de la Nièvre, nous avait dit à l'époque, c'est une expérience et on en tirera le bilan. Aujourd'hui, zéro. Aucun bilan n'a été fait. Et je peux vous dire que sur cette route-là, eh bien, il y a des queue-leu-leu. On va à la queue-leu-leu derrière les camions. Parce que c'est une route qui rejoint la fameuse RCEA, vous savez, celle qui est en train d'être transformée et qui est si meurtrière. Mais là, il n'y avait pas d'accident. Dans un deuxième temps, je m'interroge plus globalement sur la politique des transports et des routes de notre gouvernement. Il y a quelques semaines, j'ai pris la A20 et j'ai vu une déclaration sur une... Vous savez, cette partie de la A20 qui est non concédée, qui est gérée par la DIR Centre-Ouest que vous devez connaître. Les syndicats de cette DIR Centre-Ouest ont informé les usagers de la A20 qu'il y avait actuellement des tractations entre les sociétés déjà concessionnaires, le ministère des Transports. Pour faire quoi? Pour arriver, tôt ou tard, à une gestion public-privé, un partenariat public-privé pour la gestion de ces autoroutes non concédées. Il n'y a pas que la A20, il y a la A77, la A75. Et qu'est-ce qui va résulter? Il va y avoir des péages. Dans un deuxième temps, l'État veut se désengager sur les routes nationales en faisant le même partenariat public-privé. Eh bien, on va arriver, comme il est à craindre, comme on fait d'ailleurs en Suisse, quand on rentre, vous êtes obligé d'acheter une vignette pour pouvoir circuler sur le réseau routier suisse. C'est exactement ce qui va se passer.
Merci, monsieur Murat. Monsieur Belair.
Oui, par rapport à ce que dit monsieur Saussier, quelques remarques. D'abord, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement sur la notion de temps. La question n'est pas là. C'est vraiment de toute autre chose dont il est question. La question également est de savoir quelle évaluation on va faire de cette mesure. Or, si vous avez bien lu ce qui a trait à ces problèmes de circulation et de limitation de vitesse, il y a également un train de 17 autres mesures qui sont retenues. Donc, comment évaluer sur ces 18 mesures quelle est celle qui, théoriquement, permettra de sauver davantage de vies que d'autres? Je ne suis pas persuadé que ce soit uniquement la vitesse. Si on compare par rapport à ce qui est comparable et toute proportion gardée, vous savez très bien qu'en Grande-Bretagne, d'une part, en Allemagne, d'autre part, les vitesses ne sont pas limitées de la même manière et le taux de mortalité, toute proportion gardée, est inférieur et bien inférieur à celui de la France. D'autre part, on pourrait également parler d'autres points qui seraient à améliorer, en particulier l'état des routes. Vous avez des tas de routes qui sont, je parle de routes secondaires, ou même parfois de routes nationales, qui sont en très mauvais état. Et il est évident que là aussi, si on veut réduire le nombre d'accidents, il y aurait grand intérêt à faire en sorte que ces routes soient beaucoup mieux entretenues.
Je ne vais pas poursuivre le débat indéfiniment. Je veux dire que sur l'état des routes, effectivement, on ne peut que regretter. Mais je veux dire, c'est pas nouveau. Hein, je veux dire, la Cour des comptes, depuis les années 90, a dénoncé le manque de financement lié à l'entretien du patrimoine routier. Donc, je veux dire, on a effectivement un routier national, hein, qui est fortement dégradé, réseau routier national, départemental aussi. Mais je veux dire, au niveau des aménagements routiers, on peut pas nier qu'il y a eu quand même des efforts de fait sur l'aménagement des carrefours, etc. Et je veux dire que la dégradation du réseau routier, elle n'est pas forcément liée. Les accidents ne sont pas forcément liés à la dégradation du réseau. Et je veux dire au contraire. Parce que lorsque vous avez un réseau qui est dégradé, alors bon, c'est une constatation, mais la vitesse diminue. Je veux dire, moi j'ai été confronté, je dirais, lors de ma carrière, au maire que je rencontrais et qui me disait « il faut faire quelque chose, ça va trop vite ». Ça va trop vite. Devant les écoles, ça va trop vite. Il faut faire quelque chose. Alors on fait des bosses parce que, je dirais, la meilleure façon de ralentir, c'est de modifier le profil en long. Hein. On fait des bosses, on fait des chicanes, enfin pour le profil en travers, on fait des chicanes, etc. Donc, on a deux constats. Je veux dire, l'automobiliste qui a son enfant près d'une école dit, voilà, ça va trop vite. Quand il est dans sa cour, derrière son barbecue, les voitures font du bruit, etc. Ça va trop vite. Mais quand il est derrière son volant, il faut une certaine liberté, un peu la griserie de la vitesse, etc. Voilà, donc, soyons raisonnables.
Bon, je ne peux pas intervenir dans le débat, je vais le faire simplement, une fois n'est pas coutume, en vous lisant un extrait de l'exposé des motifs de la proposition de loi qui a été déposée par le député Marc Le Fur à l'Assemblée nationale, proposition de loi qui souhaitait que soit maintenue la limitation de vitesse à 90 km/h et qui n'a pas suscité un débat énorme, mais pour lequel aucun député de Seine-et-Marne d'ailleurs n'a participé. Il disait ceci, je pense que c'est important de le rappeler. Hein. Il convient de préciser que la baisse salutaire de la mortalité routière en France a pu être obtenue grâce aux campagnes d'information et de prévention, à la présence des forces de l'ordre pour interpeller et sanctionner les conducteurs aux comportements dangereux et à l'amélioration constante du réseau routier. Amélioration qui pourrait être poursuivie à moindre coût pour les finances publiques en réaffectant les budgets alloués au radar. Le Danemark, qui avait abaissé la limitation sur les routes à deux voies à 80 km/h en 2011, lançait une expérimentation en fixant à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur 16 tronçons peu accidentogènes. Après 3 années d'expérimentation, le ministère danois des Transports a enregistré une baisse du nombre d'accidents et noté, grâce à une politique responsable d'éducation et de prévention, une réduction des conduites à risque, plus particulièrement les dépassements dangereux. Si le débat doit être posé, il ne peut se faire, et là je suis à 100% d'accord avec Marc Le Fur, sans que la représentation nationale ne soit saisie. Il serait d'ailleurs plus cohérent qu'en définitive, il revienne au législateur de se prononcer à l'issue d'un vrai débat parlementaire avec la présentation d'un projet de loi assorti d'une étude d'impact, ce qui n'est pas le cas. Le législateur s'est, au cours des dernières années, prononcé sur des sujets de moindre importance. Il serait donc cohérent qu'il puisse débattre et délibérer sur cette mesure qui concerne le quotidien des Français. Voilà. Encore une fois, un déni de démocratie en mettant de côté la représentation nationale. Je pense qu'effectivement, on pourra bientôt réduire d'un tiers le nombre de députés et de sénateurs. Je pense que si ça continue, on pourra tout simplement se passer complètement du Parlement. Ça ira bien plus vite. Voilà. Alors, après ce débat intéressant, l'opposition nous pose toute une série de questions orales. Alors, allons-y. Dans l'ordre.
Nous avons des petites questions, simplement. Il y en a certaines qu'on avait déjà posées, et c'était pour essayer d'avoir une réponse.
Donc, lors du dernier conseil municipal, nous avons fait remarquer que les documents relatifs au projet de réhabilitation de l'avenue Foch n'étaient plus disponibles donc en ligne sur le site de la commune. Vous avez indiqué qu'il n'y avait aucun motif à cette absence et que vous alliez rapidement les remettre à la consultation. Donc la rubrique consacrée au projet d'aménagement ne comporte toujours aucun renseignement sur ce dossier. Et pourquoi les documents ne sont toujours pas accessibles ?
Alors, je vous ai fait des réponses écrites à chaque fois pour être court et concis. Dans ma réponse, je pensais que ce projet avait fait l'objet d'une présentation dans la plaquette « Les grands projets » que nous avons édité en janvier 2017 et mise en ligne. Mais comme ce n'était pas un projet de construction mais de réhabilitation, il n'y a pas trouvé sa place. De fait, il n'a jamais été présenté sur le site internet. En conséquence, d'ailleurs, il n'a donc pas non plus été retiré. C'est un petit peu l'ambiguïté de la question. Une présentation sous forme de diaporama existe et a été montrée d'abord au comité consultatif cadre de vie, puis aux riverains lors de la réunion publique du 19 novembre dernier. Ce fichier étant trop lourd, car au format vidéo, il n'a pu être inséré sur le site internet de notre ville. Et puis, j'avoue qu'on a dû ensuite un peu oublier. J'ai demandé, depuis notre dernière réunion du conseil municipal, au service communication, de rechercher une solution technique. Et c'est chose faite. Voilà. Vous pouvez trouver depuis aujourd'hui cette présentation dans la partie projet d'aménagement et j'en remercie nos agents qui ont recherché et trouvé la solution. Je précise également qu'il n'y a pas eu de nouvelle présentation alors que le projet, lui, a évolué. Hein, nous avons ainsi rétabli le double alignement d'arbres dans le projet alors que sur la présentation, vous verrez donc un alignement d'arbres d'un côté et un alignement d'arbustes de l'autre.
Par contre, je suis allé sur le site à 7h moins le quart, je n'ai pas réussi à l'avoir.
Il y est. Hein. Vous allez dans la rubrique. Alors, peut-être faudra-t-il qu'on remette un petit peu les projets d'aménagement plutôt en avant, parce que là, il faut aller les chercher derrière. Donc, peut-être les remettre un petit peu en première page du site, de façon à ce qu'on puisse y accéder.
Oui, parce que en cliquant dessus, il y a la première photo, et puis point, c'est tout, il n'y a rien d'autre.
Ah si, il faut dérouler un ascenseur. Il fallait trouver le moyen technique quand même de pouvoir le mettre, voilà. D'accord. Donc vous allez avoir la totalité du document, mais il n'est pas présenté comme un diaporama, parce que comme ça, c'était beaucoup trop long. Quoi. Donc il a été transformé en vue, mais avec le système de l'ascenseur, qui est moins intéressant, mais autrement, on n'y arrivait pas.
D'accord. Lors du dernier conseil municipal, et en réponse à une de nos questions, vous avez précisé que la ville avait été accompagné dans le projet de réhabilitation de l'avenue Foch par le CAUE 77. Le procès-verbal que vous avez demandé d'approuver n'est pas la transcription exacte des propos tenus au Conseil. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous votons contre. Le PV précise que le CAUE 77 ne fait que du Conseil. Sans réponse à la question initialement posée, que nous allons donc renouveler. Quel a été l'avis du CAUE 77 sur le projet de requalification de l'avenue Foch? La commune de Nangy a-t-elle, oui ou non, fait appel à leur conseil, comme vous l'avez précisé oralement lors du dernier conseil municipal?
Très bien. Alors, je confirme une nouvelle fois que le CAUE 77 ne formule pas d'avis, mais des conseils. Pour essayer de vous en convaincre, voici les trois premiers articles de ces statuts. Article 1er. Il est créé entre les adhérents au présent statut dans le département de Seine-et-Marne une association, c'est une association, hein, le CUE, dénommée Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Seine-et-Marne, dont le but est de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement avec le souci permanent de les adapter aux particularités locales. Article 2. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement. Il contribue directement ou indirectement à la formation et au perfectionnement des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction. Il fournit aux personnes qui désirent construire les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité, architectural des constructions et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois pouvoir être chargé de la maîtrise d'œuvre. Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. Il est représenté à la commission départementale d'urbanisme et à la conférence permanente du permis de construire. Il est consulté avant toute demande de permis de construire par les maîtres d'ouvrage qui, en application des articles 4 et 5 de la loi numéro 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, n'ont pas fait appel à un architecte. Article 3. Pour remplir ses missions, l'association met en œuvre les moyens qu'elle estime adaptés à la situation locale, notamment consultations, conférences, publications et documents audiovisuels, stages de formation et de perfectionnement. Elle peut établir avec tout organisme compétent, et notamment les organismes d'études créés par l'État et les collectivités locales, les modalités de coopération à ses missions. Fin de citation. Donc il s'agit bien d'une association qui est là pour apporter du conseil, point barre. Donc, je vous confirme que nous avons consulté oralement l'architecte du CAUE avec lequel nous travaillons régulièrement dans tous nos projets de développement, et le CAUE a été consulté directement par l'architecte des bâtiments France, comme cela a été indiqué par ses services en réponse à un courrier adressé par Madame la conseillère départementale et que nous avons publié. Donc, vous avez là tous les éléments, je ne peux pas vous en fournir d'autres.
Voilà. Donc, au sujet des pôles gares, les derniers documents disponibles en ligne datent de février 2016. Donc, pouvez-vous faire un point d'avancement du projet? Quelles modifications éventuellement ont été apportées? Et quelle serait le nouvel échéancier des travaux? Combien de places de stationnement dans le parking modulaire et autour sont définitivement actées?
Les éléments du projet de pôle gare ont été présentés en réunion publique le 4 février 2016. Le document qui a été présenté à cette occasion a fait l'objet d'une mise en ligne sur le site internet de la ville. Depuis, la partie concernant le stationnement et le parc relais a fait l'objet d'une mise en œuvre avec la SNCF et son délégataire, la société EFIA. Ce projet n'a pas fait l'objet d'une nouvelle mise en ligne, les contours précis n'étant pas complètement arrêtés. Il le sera avec la délivrance prochaine du permis de construire. Aujourd'hui, le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire en cours d'instruction et il n'est donc pas administrativement communicable à ce stade. Des communications publiques relatives au parc relais ont toutefois été faites en conseil municipal du 5 mars 2018 lors de la délibération sur la convention de transfert de gestion des terrains d'emprise dans le Nangimac numéro 48, février-mars 2018. Le dossier au stade avant-projet fait l'objet d'une présentation en groupe de travail, comité de suivi, qui s'est déroulé le 9 octobre 2017, groupe de travail ouvert à l'opposition municipale, en la personne de vous-même, M. Gabarou, ou éventuellement de votre représentant. J'ai demandé une nouvelle réunion pour le mois de septembre. Il n'y en a pas eu d'autre depuis. Le projet prévoit toujours la réalisation de 499 places réparties sur trois niveaux. Je vous rappelle que la réglementation du stationnement, si nous ne créerons pas de stationnement payant, interdira dans un rayon de 500 mètres aux voyageurs de se garer. Donc on est bien sur 499 places réservées aux voyageurs dans ce parc relais. Et s'ils ne veulent pas aller dans ce parc relais, il leur faudra faire 500 mètres à pied. C'est ça la réalité. Pour la partie opérationnelle, la SNCF et EFIA envisagent le démarrage des travaux du parc relais en février 2019. Ça n'a pas bougé, en fait. Après la fin des travaux du parc relais de Mormant, ben, on dit que ça peut-être, on a à la fois le maire de Mormant qui nous dit que ça a pris du retard et la SNCF qui dit non, ils tiendront les délais, et ceux de l'avenue Foch pour ce qui nous concerne. Les autres travaux du pôle gare seront programmés ultérieurement, notamment pour le parvis après la fin de l'électrification et la mise en accessibilité des quais après 2021. Juste une toute petite parenthèse que je n'ai pas écrite. Vous avez vu que j'étais un petit peu étonné, là aussi, en lisant La République aujourd'hui, de voir que après la manifestation qui a eu lieu à Provins vendredi et celle qui a eu lieu à jeudi à la gare de l'Est, eh bien, Madame la présidente de la région Île-de-France dit que la région Île-de-France va bien avancer 25 millions d'euros à l'État et que la région Grand Est va avancer les 15 autres millions. Je ne vois pas très bien pourquoi on nous a appelé à manifester, mais ce n'est pas grave. Hein. Tant mieux, ça va permettre aux travaux de se réaliser dans les temps. Je trouve, pour la part, assez détestable cette position de l'État qui tentait de renvoyer encore aux calendes la réalisation de cette électrification pour laquelle nous travaillons depuis fort longtemps. Voilà, donc.
D'ailleurs, au propos du parc relais, est-ce qu'il y a eu une décision, à ma connaissance, ça n'a pas encore été pris, pour le stationnement autour sur les 500 mètres? Alors, est-ce que ça va être un stationnement payant ou est-ce que ça...
Non, on aura le temps, on va y travailler. La livraison du parc, c'est pas avant mars 2020. Donc voilà, donc on a une commission qui travaille sur ce sujet-là, qu'on va réunir de nouveau. Si vous voulez, mon sentiment personnel, c'est qu'on n'est pas en mesure d'imaginer du stationnement payant dans des conditions financières, matérielles et de traitement des recours. Voilà. Donc, le sujet, ça sera plutôt de savoir quel type de zone et quelle durée en fonction de la proximité des commerces ou des quartiers résidentiels. Quoi. C'est plutôt ça. Question numéro 4.
Alors, il y en a 6, excusez-moi. Vous avez à plusieurs reprises été alerté par des riverains situés à proximité du 27 avenue du Général Dutailly, donc inquiet de l'abandon de cette propriété ainsi que des incidents et intrusions qui ont pu s'y dérouler. Vous avez depuis donc engagé une procédure d'état d'abandon manifeste de propriété. Alors, pouvez-vous nous expliquer votre projet sur ces parcelles, si elles revenaient à la ville à l'issue de la procédure?
Donc, la procédure est effectivement engagée et suit son cours, hein, sans aucune réaction des deux propriétaires concernés. Mais elle sera encore longue avant de pouvoir procéder aux expropriations. Il nous reste donc du temps pour trouver le projet d'intérêt général le mieux adapté. Je rappelle que la précédente procédure, parce qu'il y en a une qui est allée jusqu'au bout, s'était appuyé sur un projet de construction de maisons de ville à loyer modéré. Les riverains de l'époque s'y étaient alors opposés et avaient fait revenir le propriétaire, hein, qui avait repris l'entretien de son terrain pendant quelques temps. Nous avions donc renoncé à cette procédure, c'était en 2007. Et mon successeur ne l'a pas non plus reprise. Aujourd'hui, les riverains ont changé. Et tous ceux que j'ai rencontrés m'ont indiqué qu'ils ne s'opposeraient pas à un tel projet. Cela reste donc une piste. Une seconde peut être celle d'une micro-crèche, mais à condition qu'elle soit portée par le secteur associatif. Aucun projet n'est aujourd'hui arrêté et je suis preneur d'autres propositions, donc n'hésitez pas.
Et l'entretien, donc, c'est toujours le propriétaire qui doit le faire, parce que ville, pendant un moment, là, vous avez quand même nettoyé un petit peu. Alors
le problème, c'est que si on nettoie, il n'y a plus d'abandon, et en même temps, on essaie quand même de faire en sorte que ça ne reste pas trop dangereux.
Oui, c'est ça, c'est le problème de la dangerosité.
Voilà. Mais on poursuit la procédure. Vous savez qu'après, il y a une procédure d'enquête public, enfin, tout ça est un petit peu complexe. Donc les projets, il faut les travailler en leur temps, mais voilà, moi je suis preneur d'idées, hein, il n'y a pas de souci.
Dans le bulletin municipal numéro 50, mai-juin 2018, vous présentez le budget 2018. Le premier budget de la ville est consacré à l'administration et la gestion des services, le second à l'éducation et le troisième à la solidarité. 2,4 millions d'euros seront consacrés aux actions sociales, au droit au logement, à l'aide aux loisirs des seniors et des familles. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous détailler davantage la répartition de ce budget?
Oui.
Si c'est pas trop long.
Non, c'est très court. Cette présentation a évidemment un caractère pédagogique, hein, et ne prétend pas à un caractère scientifique ou comptablement juste. Le montant de 2 400 000 euros est obtenu en additionnant, et vous pourrez vérifier, hein, les dépenses de fonctionnement et d'investissement du CCAS, du Fonds de solidarité logement, les quelques dépenses qu'on a votées tout à l'heure, de la résidence du château, du service de la vie locale en fonctionnement et ressources humaines, puisque dans la partie qui est indiquée sur l'administration et la gestion des services, vous voyez bien qu'il n'y a pas toute la masse salariale. On l'a aussi répartie de façon thématique. Ce qui nous fait au total un peu plus de 1 390 000 euros. Alors vous allez me dire, mais alors où est le million restant ? Bien, le million supplémentaire correspond à ce que nous appelons une valorisation de notre politique tarifaire très solidaire concernant entre autres le multi-accueil, la restauration scolaire, les accueils pré- et post-scolaires. Nous valorisons ainsi les 60% de subventions de la ville à la restauration municipale, soit une enveloppe de plus de 535 000 euros, puisque la moyenne de participation des familles elle est de 40%. C'est pour nous clairement un acte de solidarité pour la totalité des familles d'Angiciennes qui en bénéficient. C'est comme ça que nous valorisons notre action solidaire. Alors on aurait pu mettre aussi ça complètement dans la partie éducation, mais il y a l'action éducative et il y a quand même l'action tarifaire pour permettre l'accès à nos services dans de bonnes conditions. Voilà comment on arrive à 2,4 millions.
Et la dernière question, c'est sur le site EDF Les Pâtures du Gué. Donc un projet a été élaboré avec un promoteur, il fait l'objet d'un permis de construire et est en cours de réalisation. Nous constatons encore l'abattage de nombreux arbres au centre donc, des Pâtures du Gué. Et sauf erreur de notre part, M. Pasquier avait fait classer ces arbres afin d'empêcher justement EDF de les faire tomber. Avez-vous déclassé les arbres pour permettre ces travaux ? Je rajouterai peut-être un petit truc dans le sens où au nord des Pâtures du Gué, finalement les Pâtures du Gué ont l'air d'avoir diminué en superficie et il y aurait une zone au nord qui est inconstructible avec les arbres.
Oui, vous avez effectivement donc constaté l'abattage d'arbres sur les parcelles appelées Pâtures du Gué, hein, pour permettre la construction du programme d'habitation et du cabinet médical pluridisciplinaire. Comme vous le savez, il est quelque peu difficile de construire des maisons autour des arbres. Ceux concernés se trouvaient sur le tracé des voies d'accès, sur l'implantation des bâtiments ou trop proche des bâtiments pour être maintenus. Comme cela a été prévu au permis de construire, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, 28 arbres ont été coupés. Aucun d'entre eux, évidemment, ne faisait l'objet d'une protection. Ceux qui le sont se trouvent au nord, sur la parcelle dont EDF reste propriétaire et qui jouxte le chemin de la gare. C'est eux seuls qui étaient protégés. En contrepartie, il est prévu également, au permis de construire, la plantation de 49 arbres. 28 arbres abattus, 49 arbres replantés. Bien que s'agissant d'une propriété privée, vous constaterez que cela correspond presque aux engagements de Nangis sur l'espace public. Un arbre coupé, deux replantés. Cet engagement, je vous rappelle, n'a pas été tenu par vos amis lorsqu'ils ont géré notre ville de 2008 à 2012. Ceux-ci n'ont pas hésité, par exemple, à couper, sans aucune raison valable, l'allée d'arbres dans le stade, celle qui permettait aux sportifs, à leurs supporters ou leurs familles de trouver un peu d'ombre quand il fait si chaud. Nous allons replanter cette allée à l'automne prochain.
Voilà. D'accord. Donc, par contre, ce ne sont pas nos amis.
Je retire.
Ce ne sont pas nos amis.
D'accord. Ok. Dont acte. Donc.
Justement sur les Pâtures du Gué, est-ce qu'il y a c'est une question qui a été posée donc au conseil communautaire. Il y a quand même le problème de la subvention pour la maison de santé. Pour l'instant, on n'a rien sur la subvention. Donc, si les travaux commencent, la subvention risque de pas l'avoir.
Ah bah les travaux, non, parce que là c'est différent. Les travaux peuvent commencer et c'est à partir d'un certain moment, notamment lorsque le gros œuvre est terminé, que l'acquisition se fait par la communauté de communes. Et c'est au moment de la date d'acquisition
C'est ça, les travaux vont être réalisés, mais nous ne serons pas propriétaires, donc on a encore le temps pour avoir la subvention.
Tout à fait. Voilà, bah écoutez, après ces questions précises, j'espère avoir apporté des réponses précises. Je vais lever la séance. Auparavant, j'ai un petit papier qui me dit que de prendre date des 3 prochaines séances du conseil municipal qui auront lieu le lundi 24 septembre, le lundi 5 novembre et le lundi 17 décembre. Voilà. Ensuite, ça sera fin janvier, etc. 24 septembre, 5 novembre, 17 décembre. Et ça sera donc dans le compte-rendu du Conseil. Je vous remercie de votre active participation. Je remercie le public de sa patience. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée.